17h, 20h.
Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce 18-20 au menu 2 heures d'infos, du sport et une météo estivale. Une grande page média avec Bruno Patino, le directeur d'Arte, qui nous apprend que le temps de concentration des millennials devant leurs écrans est comparable à celui d'un poisson rouge. 8 secondes pour le poisson et seulement 9 secondes pour nous, humains. Et des dossiers. Aujourd'hui, 1er juin, le RSA a 10 ans. Le revenu de solidarité active a remplacé le RMI avec deux objectifs. Aider les chômeurs à retrouver plus facilement un job et inciter les salariés mal payé à rester dans l'emploi plutôt qu'espérer toucher davantage grâce aux aides. Mais le RSA est également critiqué. Le Premier ministre a même envisagé, sujet tabou et explosif, de conditionner son accès à des contreparties. Est-ce une fausse bonne idée ? Réponse avec Martin Hirsch en personne. C'est lui qui avait créé le RSA sous la présidence Sarkozy et il n'a pas peur de l'autocritique. Question, est-ce que vous connaissez le plogging ? C'est la contraction de jogging et d'un verbe suédois, plocka upp, qui signifie ramasser. En gros, c'est ramasser des ordures en faisant du sport. Un plogging géant va avoir lieu mardi à Paris, Lyon, Marseille. Comment s'inscrire et est-ce que c'est pas se donner bonne conscience à peu de frais ? Réponse avec l'organisatrice. Je n'oublie pas la fameuse demi-heure culturelle à 19h15 avec François-Olivier Gisbert. Et puis on ira faire un bilan de la journée à Roland-Garros avec notre super consultant Cédric Pioline. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. Vous pouvez bien sûr réagir à l'actu avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. 18h, bon week-end et bonne écoute. Le journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Ça ne vous a pas échappé, ciel bleu, non. Température digne d'un mois de juillet, un temps idéal pour profiter du week-end prolongé de l'ascension. On a même dépassé les 30 degrés dans le sud-ouest. La facture d'électricité, elle grimpe, elle aussi, presque 6%. Et le président de la commission de régulation de l'énergie, qui a fait le calcul, justifie cette hausse sur Europe 1. Cela m'indiffère, première réaction du journaliste irlandais Ian Bailey, après sa condamnation en son absence hier à Paris à 25 ans de prison pour le meurtre de Sophie Toscan Duplantier. Et puis à la fin de ce journal, la chanson d'un vétéran britannique du 6 juin qui fait un carton.
Europe 1.
Et c'est un peu l'été avant l'été sur une grande partie de la France.
Plein soleil, grand ciel bleu et donc des températures dignes d'un mois de juillet qui dépassent même sous abri, nous dit Valérie Darmon, les 30 degrés dans le sud-ouest. Et à Paris, Marion Jorte, petits et grands s'en sont donnés à cœur joie pour souffrir un peu de fraîcheur.
Et oui, Fabienne, avec 29 degrés dehors, rien de mieux que d'emmener ses enfants dans les parcs. Écoutez Philippe, il a 6 ans, il s'est trouvé une super occupation.
Je vais dans les jets d'eau et je prends le soleil pour me rafraîchir.
Voilà, les jets d'eau, c'était l'attraction de l'après-midi dans le parc André Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris. Alors, pour suivre les enfants, il y avait les parents un peu frileux, comme Gabriella, qui avait pensé à tout pour éviter de se mouiller.
Oui, on a un petit parasol, on a pris une petite piscine bateau bébé et on l'a rempli avec les jets d'eau. Et comme ça, le bébé, il est toujours dans l'eau.
Voilà, ça c'était la maman organisée. Puis il y a les parents courageux comme Grégory avec sa fille de 3 ans qui n'a pas hésité à enfiler aussi son maillot de bain.
Ma fille m'a dit « Papa, j'ai envie d'aller », elle a vu tous les enfants et on est allé changer à la maison et on est revenu pour se baigner. C'est vraiment génial, après on va aller prendre une petite glace, voilà quoi.
Oui, il y avait du monde devant le marchand de glace à la pause goûter, mais vous imaginez bien que c'était la seule possibilité des parents pour faire sortir leurs enfants de l'eau.
Marion Jorte, et il faut bien profiter de ces températures estivales car la pluie est de retour dès lundi et on va perdre jusqu'à 10 degrés par endroit.
Et puis un Philippe de 6 ans, il fallait le trouver. Bravo Marion. Ça grimpe également du côté de votre facture d'électricité.
Et là, ça fait moins sourire. Presque 6% de hausse aujourd'hui, une augmentation qui concerne 25 millions de foyers. Un bon lien au calcul fait par la CRE, la commission de régulation de l'énergie, qu'il avait proposé dès février dernier, avant que le gouvernement ne diffère la hausse à cause de la crise des gilets jaunes. Une décision que le président de cette commission, Jean-François Carinco, a justifiée ce matin sur Europe 1.
Il nous faut payer la transition énergétique. Et la transition énergétique en France, pays qui émet pour son électricité le moins de carbone au monde grâce au nucléaire, eh bien le nucléaire, ça se préserve jusqu'à ce qu'on puisse le remplacer par des énergies renouvelables. Sur le prix, 5,9, c'est le moins de tous les pays européens en cette année 2019. Donc peut-on de temps en temps se dire qu'on est content ? 5%, ça reste quand même. 85 euros par an. Pour faire la transition énergétique, préserver la sécurité de nos approvisionnements, la qualité de notre énergie et des prix sur le long terme, raisonnable.
le président de la Commission de régulation de l'énergie, Jean-François Carenco, qui était l'invité de Bernard Poiret ce matin sur Europe 1.
Question, un vent de révolte soufflerait-il chez les députés Les Républicains?
En tout cas, ils sont une vingtaine à envisager de faire groupe à part à l'Assemblée nationale après la déroute de leur parti aux européennes. Parmi eux, le député de la Sarthe, Jean-Carl Grelier.
Nous sommes aujourd'hui enfermés dans une impasse et cette impasse-là ne peut pas nous produire de solution à terme. Si on doit rester dans un entre-soi à l'intérieur du parti sous la même autorité et avec le même champ d'idées, on n'y arrivera pas. Et élection après élection, les Républicains finiront par disparaître. Nous sommes des seconds couteaux, nous n'avons aucune prétention particulière. Nous ne sommes candidats à rien, si ce n'est à retrouver le sens et les valeurs qui sont celles de la droite française dans toute son histoire et retrouver aussi ce soutien populaire qui nous fait aujourd'hui défaut, ce soutien de nos militants, de tous ceux qui aujourd'hui sont perdus et ne savent plus où s'adresser, du Rassemblement National à La République En Marche. Eh bien, entre les deux, il y a encore une place pour la droite et c'est ce à quoi nous allons essayer de nous atteler.
Le député républicain de la Sarthe, Jean-Carl Grelier, avec Adrien Beck.
Le verdict est tombé hier dans le procès du meurtre de Sophie Toscan-Duplantier.
25 ans de prison, décision de la Cour d'assises de Paris contre Yann Bellet, jugé en son absence. Le journaliste irlandais a réagi pour la première fois cet après-midi à cette condamnation sur une chaîne de télé irlandaise et il clame toujours son innocence.
Cette condamnation, elle m'indiffère. Ce que je demande, c'est que quelqu'un en Irlande se manifeste et le courage de dire la vérité et admette qu'ils savent que ce n'était pas moi. Je sais qu'il y a des gens dans ce pays qui savent que ce n'était pas moi le coupable. Je sais qu'ils se sont assis là-dessus et je prie pour que la vérité éclate. J'ai toujours de la sympathie pour la famille Toscan-Duplantier. On leur a menti dès le début sur le fait que j'étais le coupable et ils ont choisi de le croire. Mais ils ont toujours ma sympathie.
Voilà pour la première réaction de Yann Bellet après le verdict hier à Paris. Yann Bellet contre qui un mandat d'arrêt européen a été lancé hier soir, donc après sa condamnation à 25 ans de prison pour le meurtre de Sophie Toscan-Duplantier.
Europe 1. À suivre, le RSA fête ses 10 ans. Nous sommes allés dans le Nord pour retrouver des allocataires, ceux qui cherchent un emploi pérenne.
Il est 18h08, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Philippe Blondel.
Le RSA fête ses 10 ans.
Et dans le Nord qui compte de nombreux allocataires, le conseil départemental veut que ce RSA ne soit pas une fin en soi, mais plutôt un tremplin pour être recruté par une entreprise. C'est pour cela que le département passe des conventions, comme par exemple avec le Club Med qui recrute pour des jobs d'été. Cela permet aussi au conseil départemental qui finance le RSA de faire des économies en réduisant à terme le nombre d'allocataires. Reportage Lionel Gougelot.
Devant une trentaine de candidats, le responsable recrutement du Club Med expose les opportunités d'emploi pour la saison d'été à venir.
Aujourd'hui, vous avez la possibilité, encore une fois, de rentrer au sein du club, étant agent d'entretien, développer vos compétences par la suite et devenir, pourquoi pas, valet de chambre.
Des jobs qui peuvent parfaitement convenir à des allocataires du RSA que le département veut remettre sur le marché de l'emploi. Guillaume Leblon, chargé de mission insertion.
Employé de plonge, agent d'entretien, on a des gens qui étaient en grave difficulté d'hébergement, qui ont intégré le club sur des postes de première qualif et qui sont maintenant épanouis et toujours en poste.
Comme Prince, qui va entamer sa deuxième saison au Club Med.
C'était impossible de rester au RSA, j'ai quand même 34 ans. Ça m'a permis d'avoir un statut, d'évoluer. Moi, je sais qu'il y avait une petite barrière avec la langue, mais c'est faisable. On nous met dans le bain et voilà, c'est à nous de faire nos armes.
Question de volonté confirme effectivement Joël Boulevert, recruteur au Club Med.
Si vous n'avez pas la conviction vous-même de vouloir justement sortir de ce cadre-là, on ne peut rien faire. Après, si réellement vous avez envie d'y aller et puis avancer, les opportunités sont énormes.
Objectif pour le département du Nord, passer sous la barre des 100 000 allocataires RSA d'ici 3 ans et inverser la courbe des dépenses sociales. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et je recevrai tout à l'heure le créateur du RSA il y a 10 ans, Martin Hirsch. À quelques jours des 75 ans du débarquement en Normandie, c'est une chanson qui fait un carton sur les sites de téléchargement.
Et c'est celle d'un vétéran britannique qui a tenu à rendre hommage à ceux qui sont tombés le 6 juin 1944, Marguerite Lefebvre.
Oui, ce soldat britannique s'appelle John Radford. Il a aujourd'hui 90 ans. C'est le plus jeune vétéran du D-Day. Et pour le 75e anniversaire, il voulait marquer le coup en publiant cette chanson.
In the cold grey light of the 6th of June, in the year of 44,
Les rives de la Normandie, souvenir de ce 6 juin 44. Le jeune Jim n'a que 15 ans et débarque sur Gold Beach. La nuit sur l'eau, la peur, les morts sur le sable ensanglanté. Pendant 4 minutes, Jim Radford rend hommage à tous ces vétérans du D-Day. Des paroles et une voix qui ont ému les internautes. Le titre fait partie des plus téléchargés sur Amazon, devant les stars Justin Bieber ou Ed Sheeran. Un succès qui surprend tout le monde, à commencer par l'auteur lui-même, qui a écrit ses paroles il y a 50 ans. Mais un succès qui réjouit, évidemment, Jim Radford, d'autant que toutes les recettes seront envoyées au Mémorial britannique de Normandie, un monument qui sera inauguré à Gold Beach le 6 juin prochain.
Voilà pour cette balade très nostalgique de ce vétéran de 90 ans et dans laquelle ils rendent hommage, rive de la Normandie, à ses camarades tombés en 44.
C'était un reportage de Marguerite Lefebvre et c'était le journal de Fabienne Lemoal. Merci beaucoup Fabienne.
18h11, vous écoutez Europe 1.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Quel plaisir, encore une belle journée qui s'annonce demain, mais avec toutefois quelques bémols par endroit.
Tout à fait, dans le nord-ouest, un ciel qui se voile, de la Vendée aux côtes de la Manche avec un petit risque d'ondée. Si vous habitez en revanche entre les Ardennes et le Grand Est, du bassin parisien au Val-de-Loire, en Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes, très très belle journée de nouveau ce dimanche, soleil et chaleur. Dans le sud-ouest, ciel par moments voilé, des températures aussi élevées que ce samedi, entre 30 et 34 dans les terres. Mais sur les plages aquitaines, l'ambiance n'est plus aussi belle parce que demain, vous connaîtrez l'arrivée d'une perturbation océanique. Les températures vont donc chuter sur le littoral entre 21 et 23. Dans l'arrière-pays méditerranéen, vous conserverez le soleil et de fortes chaleurs. Les maximales oscilleront entre 20 à Cherbourg et 34 à Cahors, 26 annoncés à Marseille, 27 à Nantes, 28 à Rodez, 30 degrés à Angoulême, 31 à Charleville, à Lille et à Strasbourg et 32 à Paris en ce dimanche après-midi.
On a bien senti passer le 30. Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure.
Le journal des sports.
Avec vous, Simon Rubin, bonsoir.
Bonsoir.
Ce journal des sports qui débute par du football, ce soir, c'est la finale de la Ligue des Champions 100% anglaise.
D'un côté, Liverpool, fort d'une histoire européenne longue et prolifique, et de l'autre, Tottenham, qui joue ce soir sa première finale de Ligue des Champions, les Spurs d'Hugo Lloris, qui rêvent d'un sacre, évidemment. Et ils ont des arguments, Julien Froment.
Effectivement, le principal argument notamment s'appelle Lucas Moura. Et oui, l'ex-brésilien du Paris Saint-Germain, héros des Spurs à Amsterdam. Lors de la demi-finale retour, il avait inscrit un fantastique triplé. C'est lui l'arme numéro 1 de Tottenham ce soir, car il y a toujours une grosse incertitude autour d'Harry Kane, le buteur et capitaine de la sélection anglaise. À court de rythme, il devrait débuter sur le banc. Mais qu'importe, cette finale, c'est aussi un duel d'entraîneurs. Klopp contre Pochettino, l'entraîneur argentin. C'est l'atout majeur de Tottenham. Il a démontré cette saison Ligue des Champions que son équipe était un collectif tout-terrain capable de répondre à tous les problèmes posés. Et ce soir contre Liverpool, eh bien, il a l'occasion d'écrire la plus belle histoire européenne du club.
Julien Froment, et on vivra avec vous en fil rouge cette finale dans Europe 1 Sport ce soir.
Et puis on reste dans le football, les Bleus du Didier Deschamps sont à Nantes aujourd'hui avant leur match amical contre la Bolivie.
Ce sera demain soir, 21h, avec quelques nouvelles têtes, notamment Benjamin Lecomte, le gardien de Montpellier. Il a 28 ans et il découvre l'équipe de France.
Une très très grande satisfaction. C'est ce que j'ai attendu aussi toute l'année, parce qu'après être y allé pour la première fois, le but c'était d'y retourner. Donc voilà, ça a été quasiment un an d'attente, mais justement ça arrive au bon moment aussi, parce que ça permet de récompenser un peu la saison que j'ai réalisée. Maintenant le plus dur, ça va être tourner à chaque fois, parce que l'équipe de France c'est le plus haut niveau, c'est le Graal français, et pour ça il va falloir tenir les performances chaque week-end, donc voilà, ça donne plein d'objectifs pour la saison prochaine.
Benjamin Lecomte au micro de Cyril Delamorinerie, qui devra quand même céder sa place à Hugo Lloris, qui reviendra de sa finale européenne.
Dans le reste de l'actualité, du cyclisme et du rugby.
Et oui, on joue les barrages du top 14 en ce moment et Lyon reçoit Montpellier. Ils sont pour l'instant après une cinquantaine de minutes de jeu. Les Montpelliérains qui mènent 13 à 11. Et puis en cyclisme, étape phare du Giro, le Tour d'Italie. Le Français Valentin Madouas de l'équipe Groupama FDJ manque la victoire de peu après une belle échappée. Victoire pour l'Espagnol Bilbao de l'équipe Astana, et c'est le Colombien Carapaz qui reste maillot rose demain contre la montre finale de 15 km.
Et puis on passe au tennis, direction Roland-Garros.
Roland-Garros 2019.
Jeu, set et match.
L'événement tennis est sur Europe 1.
Le troisième tour est des Français en lice. Deux des survivants français, Antoine Wang et Gaël Monfils, qui sont sur le court, Corinne Boulot.
Oui, Gaël Monfils qui vient de réaliser un formidable coup droit qui lui permet de faire le break à nouveau dans la troisième manche. Deux premiers sets à sens unique pour le Parisien Gaël Monfils qui a remporté les premières manches 6-3, 6-2 et qui avait fait le break au début du troisième set. Et puis Antoine Hoang avait réussi à prendre le service de Gaël Monfils pour égaliser. Mais là, à nouveau, il vient de perdre sa mise en jeu et donc Gaël Monfils mène 4 jeux à 3 et il est au service dans quelques secondes. Autant vous dire que là, s'il garde sa mise en jeu, ça sera encore plus compliqué pour le jeune Français Antoine Hoang.
Corinne Boulou en direct. Et notez que chez les dames, une petite sensation puisqu'on a assisté à l'élimination de la numéro 1 mondiale, Naomi Osaka.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Et c'était le journal des sports. Merci beaucoup Simon Roubin. Merci. On vous retrouve tout à l'heure à 19h. À suivre, c'est un anniversaire passé un peu inaperçu et qui compte pourtant pour pas moins de 2 millions de foyers. Le revenu de solidarité active, le RSA, fête ses 10 ans. Une décennie de critiques et de petites retouches sur fond de discours politiques de certains bords contre l'assistanat. Le père du RSA, Martin Hirsch, aujourd'hui à la tête de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, fait à ce micro son autocritique, mais pas seulement, dans un instant.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir. Philippe Vandel est avec nous, il est 18h18, nous sommes le 1er juin et c'est une date historique.
Le RSA a 10 ans aujourd'hui, le 1er juin 2009, le revenu de solidarité active remplaçait le RMI avec une double promesse, aider les chômeurs à retrouver plus facilement un emploi et inciter ceux qui travaillaient déjà mais avec des revenus très modestes à ne pas quitter cet emploi avec l'espoir de toucher davantage grâce aux aides. Bonsoir Martin Hirsch.
Bonsoir.
Vous
Isabelle.
Êtes le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qu'on appelle l'APHP. Vous êtes également l'ancien commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté de Nicolas Sarkozy, et c'est vous qui avez créé le RSA. Avant de vous demander quel bilan vous faites de ces 10 ans du RSA, question, a-t-il été difficile à mettre en place? Avez-vous connu des réticences?
Alors, d'un côté, il y a eu l'enthousiasme. Le RSA, il a été voté par 100% des Français. Puisqu'en 2007, élection présidentielle, qui est pour l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy contre Ségolène Royal. Et Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal ont le RSA dans leur programme. Donc 100% des Français votent pour. Puis une fois qu'on passe à l'œuvre, là, il y a ceux qui trouvent qu'on en fait trop, pourquoi est-ce qu'on en fait trop pour ceux qui sont pauvres, ceux qui trouvent qu'on n'en fait pas assez, etc. Et tout d'un coup, tout se fendille, comme souvent, parce que d'autres intérêts l'emportent sur le fer. Donc on a dû naviguer un peu à la godille entre tout cela. Mais en réalité, le RSA a été porté par quelque chose parce que...
Qu'il ajoutait au RMI qui existait depuis 20 ans, le revenu minimum d'insertion?
Quelque chose de fondamental que vous allez comprendre. Le RMI, c'était à peu près aussi 450 euros par mois. Quelqu'un qui travaillait quelques heures par jour, par exemple une dame de cantine qui faisait 2 ou 3 heures par jour, ou la dame qui aide à traverser avec un emploi aidé et qui travaille 2 ou 3 heures par jour. Elle avait un salaire de 200 euros, on lui réduisait 100% de son salaire de son RMI. Donc, travailler ou pas travailler, elle ne gagnait pas un centime de plus. Et ça, c'était extrêmement choquant. Donc, le premier sujet, c'était de dire que les gens qui travaillent un peu puissent gagner un peu plus.
Combien de personnes touchent le RSA actuellement?
Aujourd'hui, il y a 2 millions de foyers qui touchent le RSA, un peu moins de 2 millions, je crois que c'est 1 850 000. Donc, ça tangente les 2 millions de familles qui touchent le RSA et pour lequel le montant est en moyenne à peu près de 500 euros par mois. Il y en a qui gagnent moins. Parce que justement, ils ont leur revenu du travail qui viennent ajouter.
Alors, le coût du RSA a augmenté de 1% en 2018. Il frôle désormais pour l'État les 11 milliards d'euros. Il y a 2 lectures à cette augmentation.
Pas pour l'État.
Pour qui?
Pour les départements.
C'est un peu l'État. C'est la puissance publique.
Non.
C'est pas les particuliers. Non, vous faites une différence là-dessus?
C'est une grosse différence.
Expliquez.
Parce que justement, depuis 15 ou 20 ans, il y a une guerre entre les départements et l'État qui se renvoie la balle et qui explique. Donc les départements, c'est le conseil départemental qui ont là en charge la solidarité et qui disent à l'État, c'est vos politiques publiques, vos politiques de l'emploi, Pôle emploi c'est l'État, qui font que le nombre de RSA, d'allocataires du RSA augmente et c'est nous qui payons derrière. Et ça fait partie des choses hyper compliquées parce que ce système est monstrueusement compliqué et cette bataille entre l'État et les départements fait partie des choses qui compliquent la vie des gens. Là, ma grande frustration, j'en ai plusieurs, mais ma grande frustration... Il y a 10 ans, c'est de ne pas être allé plus loin, de ne pas avoir fusionné plus de choses pour pouvoir faire un système qui soit beaucoup plus simple. C'est ce qui se profile peut-être pour l'avenir.
Alors, je le disais, le RSA, le coût a augmenté de 1% en 2018, donc à la charge des départements. Il y a deux lectures à cette augmentation. Pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je vais vous dire le sens de ma question. C'est comme les Restos du Cœur. Mmh. On se dit qu'il y a de plus en plus de repas fournis. C'est formidable parce qu'il y a de plus en plus d'aides. Et en même temps, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de gens qui peuvent se payer des repas. Comment vous le voyez-vous?
Ça, c'est clairement une mauvaise nouvelle. On a intérêt à ce que les allocataires du RSA soient de moins en moins nombreux. Parce qu'il faut savoir que ça bouge beaucoup. Hein. Sur les 2 millions qu'on évoquait toujours, il y a 1 million qui rentre, 1 million qui sort. En général, dans le million qui sort, il y en a beaucoup, heureusement, qui sortent parce que leur revenu a augmenté, ils ont trouvé du boulot. Donc quand ça augmente, c'est une mauvaise nouvelle. Là, ces derniers mois, ça diminue, en même temps que le chômage qui diminue. En général, le mouvement du RSA suit le mouvement du chômage, suit le marché du travail. Pourquoi ? Parce que la plupart des allocataires du RSA, leur but dans la vie, c'est de travailler et de gagner plus d'argent, mais de travailler. C'est ça leur but dans la vie. Contrairement à ce que serinent un certain nombre de gens qui pensent que c'est des gens qui se complaisent dans cette histoire avec ce mot que je déteste d'assistana, qui est une sorte de... qu'on a qualifié de cancer, comme le faisaient certains politiques.
Sans même employer le mot cancer, on a entendu ce mot-là sur les ronds-points des Gilets jaunes. Certaines personnes disaient qu'il n'y en a que pour les assister, alors que les salariés n'ont pas droit à plein d'aides.
Si. Ben alors justement,
vous avez entendu. Que répondez-vous à ces gens-là?
J'ai hyper bien entendu. J'ai d'autant mieux entendu que, justement, on disait première avancée du RSA, c'était ceux qui travaillent un tout petit peu ont le droit au RSA. Mais également, on a créé un complément pour les gens, y compris qui travaillent à plein temps, qui travaillent au SMIC, en considérant que c'est très difficile de vivre uniquement avec le SMIC, et donc de leur apporter entre 50 et 150 euros. Ça s'appelle aujourd'hui la prime d'activité, qui est la fille naturelle du RSA, et que vous avez vu, réponse aux Gilets jaunes, on l'augmente. Donc, si je prends juste 2 secondes d'explication, quel est le sujet? Dans ce pays, il y a des gens qui sont exclus du monde du travail, et puis il y a des gens qui, malgré le travail, n'arrivent pas à s'en sortir. Et de penser qu'on peut obligatoirement augmenter les salaires n'est pas vrai, parce que dans ce cas-là, on préfère délocaliser ou on préfère remplacer par des robots, etc. Donc il faut faire en sorte que ceux qui sont peu qualifiés, qui ont des petites payes, ils ne soient pas obligés de se serrer complètement la ceinture, mais qu'ils puissent avoir un peu plus d'argent. C'est le RSA hier, la prime d'activité, peut-être le revenu universel demain. Donc un système qui permet de vivre dignement, même quand son travail paye peu. Y compris quand on a un gilet jaune, vert, bleu, de n'importe quelle couleur.
Alors le RSA, vous l'avez dit, n'est pas exempt de reproches et de critiques. Les appels se multiplient pour conditionner son accès à des contreparties. Et je vous pose la question car en février dernier, le Premier ministre en personne, Édouard Philippe, avait rouvert le débat des contreparties aux aides sociales, qu'il avait lui-même qualifié ce débat d'explosif. Qu'en pensez-vous?
Je trouve que le but de la société doit être de permettre aux gens de reprendre du travail. Et pour reprendre le travail, il vaut mieux avoir un salaire. Donc dire, vous avez le RSA et vous allez travailler sans salaire, est quelque chose qui entretient les gens dans la précarité. Donc il y a aujourd'hui des contreparties qui existent, c'est-à-dire qu'un allocataire du RSA a un contrat qui le lie avec le département, qui l'oblige à aller chercher du travail. Moi, je me suis battu quand j'ai créé le RSA, il y a 10 ans, et parfois contre les ministres de droite du gouvernement, ce qui est quand même fabuleux, pour que les allocataires du RSA soient obligés de s'inscrire à Pôle emploi, et que s'ils s'inscrivent à Pôle emploi, ce qui était obligatoire, on puisse leur réduire le RSA s'ils refusaient 2 offres valables d'emploi. Et ça, je pense que c'est la bonne formule, et il ne faut pas en bouger. C'est-à-dire que la sortie du RSA, c'est par le boulot, et quand on a un boulot, on a un salaire, on paye des charges sociales, et pas un système dans lequel on travaille sans avoir de contrat de travail ou de salaire.
Dernière question, Martin Hirsch. Le président Macron s'était emporté dans une vidéo qui est restée célèbre. Il disait « on met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas ». Et effectivement, l'effort budgétaire dans la lutte contre la pauvreté a augmenté chaque année de 3,5%. Et dans le cas du RSA, il augmente depuis sa création en 2009 de 6% chaque année. Comment l'expliquez-vous?
En 2009, il y a eu un gros truc, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelle la grande crise.
La crise des subprimes.
Donc tout d'un coup...
En 2008.
Tout d'un coup, le chômage a augmenté. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand le chômage augmente, ceux qui sont privés d'emploi et qui n'ont pas d'autres ressources, leur montant augmente. Là-dessus, quand les systèmes ne marchent pas, on peut rajouter beaucoup d'argent et ça ne marchera pas mieux. Et c'est pour ça, quoi, ce qui a été amorcé il y a 10 ans et ce qui va être complété aujourd'hui, avec le revenu universel d'activité, c'est de bien combiner les revenus du travail et les revenus de la solidarité. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on arrive à faire en sorte qu'on soit soutenu, quand on reprend un pied puis 2 pieds dans le travail, Là, on peut se dire que c'est de l'argent qui est bien utilisé.
Dernière question autour de l'actualité, vous êtes le patron de la PHP. Quatre syndicats appellent à une grève nationale le 11 juin. Ce sont les fédérations santé des syndicats CGT, FO, Sud et CFE-CGC. Ils veulent obtenir une hausse des effectifs et des salaires. Que va-t-il se passer? C'est au niveau national, c'est pas forcément chez vous la PHP. Que va-t-il se passer? Est-ce que les hôpitaux vont être bloqués? Est-ce que c'est une crainte que vous avez?
Non, les hôpitaux ne vont pas être bloqués, d'abord parce que les gens qui travaillent dans les hôpitaux sont des gens responsables, même quand ils ont besoin qu'on les soutienne davantage. Vous savez, les services d'urgence sont débordés. Il peut y avoir 4-5% de plus de malades chaque année. Au lieu de laisser les effectifs stables, on les augmentera chaque semestre ou chaque année en fonction du nombre de malades. C'est le type de réponse qu'on apporte à ces préoccupations.
À partir de quand?
À partir de maintenant.
Merci beaucoup Martin Hir. Je rappelle que vous êtes directeur général de la PHP et également le fondateur du RSA il y a 10 ans qui fête son anniversaire aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.
Fêter l'anniversaire, ce n'est pas des anniversaires qu'on fête, mais effectivement, c'est survécu 10 ans, si je puis dire, et puis j'espère améliorer les années d'après.
Merci d'avoir été avec nous pour cette célébration, si tant est que ce ne soit pas une fête. Europe 1. Et dans un instant, on va vous faire découvrir un autre sport très complet. Il fait à la fois travailler le cardio, le dos, les bras, les cuisses et il est bon pour la planète. C'est le plogging. Ça consiste à courir en ramassant les détritus qui se trouvent sur son chemin. Une grande course a lieu mardi dans les trois plus grandes villes françaises, Paris, Lyon, Marseille, à l'initiative de la marque Volvo. Nathalie Duneau, son organisatrice, est avec nous dans un instant.
Il est 18h30, vous écoutez Philippe Bondel jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1.
Et à l'instant, c'est le rappel des titres avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Très faible participation des Gilets jaunes pour la 29e journée de mobilisation. 2600 manifestants ont été recensés partout en France à 14h par le ministère de l'Intérieur, dont la moitié à Paris. C'est un peu moins que la semaine dernière. Une augmentation d'environ 85 euros par an et par foyer, les prix de l'électricité sont en hausse à partir d'aujourd'hui de 5,9%. Une augmentation pour garantir la sécurité et des prix raisonnables pour la suite, justifie la Commission de régulation de l'énergie. Aucune indication pour l'instant sur les raisons qui ont poussé un employé municipal à ouvrir le feu sur ses collègues aux États-Unis. La fusillade a eu lieu dans une station balnéaire de Virginie. Sur la côte Est, 12 personnes ont été tuées. Le tireur a été abattu par la police. Le tennis. C'est Roland Garros.
Europe 1 en direct de Roland Garros.
Corinne Boulou et Gaël Monfils vient de se qualifier pour les huitièmes de finale.
Oui, il met fin au beau parcours d'Antoine Hoang, 146e mondial, qui n'avait jamais passé autant de tours dans un tournoi du Grand Chelem. Eh bien, Gaël Monfils s'est qualifié en patron en trois manches, 6-3, 6-2. 6-3 et il pourrait retrouver sur son chemin en huitième de finale le finaliste de l'an dernier, oui, puisqu'il avait été battu par Rafael Nadal, l'Autrichien Dominic Thiem, qui est malmené hein, en ce moment sur le cours Suzanne Lenglen. Il mène 2-7-1 et 3 jeux partout dans la quatrième manche pour l'Autrichien. Et donc, ce n'est pas encore fini. Gaël Monfils ne connaît pas encore son adversaire des huitièmes.
Merci Corinne Boulou à Roland Garros pour Europe 1 Radio officielle du tournoi.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Et c'était le rappel des titres de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie. À tout à l'heure pour votre journal complet. Il sera 19h.
Bon week-end avec Europe 1, il est 18h32.
La météo maintenant avec vous Valérie Darmon. Et la bonne nouvelle, il va faire encore plus chaud demain.
Et oui, on se situera jusqu'à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison et largement au-dessus des normales que l'on a habituellement en plein cœur de l'été. Alors demain matin, il fera très doux avec 12 à 20 degrés du nord au sud. L'après-midi, les valeurs baisseront par rapport à aujourd'hui près de l'Atlantique avec 21 à 25, des plages basques et méditerranéennes à la Bretagne, mais resteront très élevés ailleurs avec 30 degrés en moyenne et jusqu'à 33, 34 en pointe de l'intérieur de l'Aquitaine, aux vallées d'Auvergne, à Rhône-Alpes, jusque sur le bassin parisien et le Grand Est, ainsi que les Hauts-de-France. L'anticyclone se décale lentement vers le Luxembourg. On a donc une perturbation qui va se rapprocher par la façade atlantique et qui va donner en toute fin de journée quelques averses sur la Bretagne. Côté ciel, vous aurez donc davantage de soleil sur les deux tiers est de la France.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
La suite de votre grand journal du soir, toujours avec Philippe Vandel. On va faire du sport, mais pas seulement.
Selon une étude IFOP qui remonte à 2015, 96% des Français, autant dire tout le monde, considèrent que la société produit beaucoup trop de déchets. Et si on décidait de les faire disparaître ? Bonsoir Nathalie Duneau.
Bonsoir.
Vous êtes directrice marketing chez Volvo France et à ce titre, organisatrice d'une course qui se fait paradoxalement sans moteur mais à pied. Ça s'appelle le Volvo Plug-in Race, dont Europe 1 est partenaire et je le dis avec d'autant moins de gêne que je trouve que c'est une très belle initiative. D'abord, question de vocabulaire, c'est quoi le plug-in ? Ça vient d'un mot suédois.
Exactement. Le plugging, c'est la contraction entre jogging et plocka upp, qui veut dire ramasser en suédois. C'est faire un jogging en ayant un petit sac et en ramassant les différents détritus que malheureusement on trouve souvent sur son chemin.
Il va y avoir une course que vous organisez, donc mardi sera le 4 juin, plus précisément où et à quelle heure, parce qu'il y a plusieurs endroits.
Il y a plusieurs endroits, ça sera au même moment à Marseille, à Lyon et à Paris. On attend les gens à partir de 18h, ça partira vers 18h45 pour une heure, un peu plus d'une heure. Et on va partir à Paris des bords de Seine, on sera sur les bords du Rhône et bords de la Saône à Lyon et on sera sur la plage à Marseille.
Alors je vais le dire, à Paris, si on veut y aller, ça sera Acténa au 56 avenue de Versailles, le sucre Kerambo à Lyon, la Romerie 148 avenue Pierre-Mendès-France à Marseille. J'ai une question, avenue de Versailles, c'est dans le 16e le plus chic, pourquoi vous n'avez pas choisi les quartiers populaires, la Villette, la Goutte d'Or et même le canal Saint-Martin qui est cher aux bobos, qui donne des leçons d'écologie à tout le monde et quand on passe le matin, c'est dégueulasse.
C'est là où on a une concession Volvo. Donc c'est comme ça que c'est porté notre
vous
choix.
Vous êtes mis en face de chez vous.
Mais en fait, le départ aura lieu quai de Javel parce que fort malheureusement, la semaine dernière, il y a eu un gros incendie dans l'immeuble d'Acténa.
Alors, qui peut participer et comment s'inscrire ?
Tout le monde peut participer à partir du moment où il a 16 ans. C'est une inscription qui est gratuite et qui se fait sur le site de volvocars.fr.
J'ai lu que vous preniez seulement les 100 premiers. Il y a deux lectures, ça veut dire 3 fois 100, 300 personnes, c'est beaucoup. Mais pourquoi s'arrêter à 100 ?
C'est purement des contraintes logistiques. Au-dessus de 100 personnes, il faut des tonnes et des tonnes d'autorisations pour pouvoir organiser une course.
Comment on s'habille et qu'est-ce que vous fournissez ?
Alors, on fournit les t-shirts, on fournit les sacs, on fournit les gants.
Ouais.
Donc après, chacun peut venir comme il le souhaite, puisqu'encore une fois, il y aura des groupes de niveau. Donc, qui veut venir en short, vient en short. Qui veut venir en jean, peut venir en jean. De toute façon, on fournira t-shirt, sac et gants. Sachant que pour ceux qui viendraient directement en sortant du travail, ils auront la possibilité de laisser leurs affaires. Il y a des consignes, ils pourront changer, etc.
On peut tout ramasser, le verre, les seringues, les vieux pneus, tout ?
On peut tout ramasser, on va éviter quand même peut-être les seringues parce que j'espère qu'on n'en trouvera pas trop, mais on va éviter les dangers. Après, il y a des gants extrêmement de protection.
Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus étonnant, déjà, dans des plug-ins ?
On trouve des sacs à main, on a trouvé un sac de sport, on a trouvé des téléphones, on a trouvé des morceaux de pare-choc, on a trouvé... on trouve beaucoup, beaucoup de choses.
Il y a un journaliste du Monde qui avait participé à un plug-in, qui avait décrit ses exploits. Après un rapide cas de conscience, je décide de ne pas m'arrêter lorsque je croise la route d'un vieux préservatif ayant visiblement connu une nuit agitée. Est-ce que vous partagez cette délicatesse ?
Moi, je pense que chacun doit avoir sa sensibilité sur le sujet. Après, on dit toujours l'important c'est de participer. Je pense que chacun à son niveau peut faire quelque chose. S'il a envie de tout ramasser, il ramasse tout. Ne serait-ce que les mégots. Les mégots, c'est une des choses catastrophiques dans la capacité de recyclage.
Un seul mégot peut polluer à lui seul 500 litres d'eau.
C'est une catastrophe, les mégots. Donc rien qu'un mégot, c'est quelque chose. Et chaque démarche est importante. Je pense que si on a eu envie de faire cette action, et pourquoi est-ce qu'on le fait pendant la semaine du développement durable ? C'est une semaine qui a pour but de sensibiliser les gens à l'importance du développement durable, à l'importance de la protection de l'environnement. Et nous, à notre niveau, c'est un petit peu l'effet colibri. Je pense que chacun, en prenant un sac et en se promenant et en ramassant un ou deux objets, un ou deux mégots, une canette, peut contribuer à ça et peut s'inscrire dans cette démarche.
Alors, c'est fait en collaboration avec l'association Run Eco Team. Et alors, c'est un paradoxe que ce soit une marque de voiture qui veuille dépolluer la planète, je ne vous le reproche pas. Mais vous voyez bien ce que certains ne manqueront pas de vous dire, vous faire du greenwashing, c'est-à-dire en français, donner une image écolo à peu de frais. Que leur répondez-vous ?
Alors, je vais leur répondre plusieurs choses. On nous a déjà dit, vous vous inscrivez dans la tendance. Alors d'abord, le plugging, c'est suédois. Volvo, c'est suédois. On est très fiers de nos racines. On est élevé dans cette culture suédoise. Je rappelle que les Suédois sont les champions en termes de développement durable et de recyclage.
Oui, mais 80... pas forcément les fabricants de voitures.
Eh bien, la deuxième chose que je vais vous répondre, nous, c'est historique chez nous. En 1945, Volvo a initié le fait de recycler les pièces détachées d'une voiture. 85% d'une voiture peut être recyclée. Et ça, ça a été initié en 1945, on a été la première marque à le faire. En 1972, on a un président qui s'appelle Monsieur Gil Hamar, qui a pris la parole dans une conférence aux Nations Unies, qui portait sur le développement durable et sur l'environnement, en disant, bah, écoutez, voilà, nous, on est industriels et on est fabricants automobiles. Et à ce titre, nous faisons partie du problème. Et c'est pour ça qu'à ce titre, nous devons évidemment faire partie de la solution.
Merci Nathalie Duneau. Je rappelle que vous êtes organisatrice de la course Volvo Plugging. Ce sera mardi à 18h à Paris, Lyon, Marseille.
Merci beaucoup.
Europe 1.
À suivre, est-ce qu'il est difficile pour vous de lire 100 pages d'un roman sans vous arrêter ou encore de regarder un film de bout en bout sans consulter votre smartphone? La plupart d'entre nous n'y arrivent plus et c'est le grand symptôme de notre temps, de ce que mon prochain invité média appelle la civilisation du poisson rouge. Bruno Patino, patron des programmes d'Arte, est avec nous dans un instant.
Et on retrouve Philippe Bandel pour la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Il est 18h41, c'est l'heure de notre page média, Philippe.
Bonsoir Bruno Patino.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur éditorial d'Arte France, également doyen de l'école de journalisme de Sciences Po, c'est-à-dire son directeur, et également grand spécialiste du numérique. Ma présentation ne m'a pris que 9 secondes, et ces 9 secondes sont le cœur de votre dernier livre, La civilisation du poisson rouge, c'est publié par Grasset. Tout part d'une étude faite par la firme Google. Expliquez.
L'étude est simple. Ils ont réussi à calculer le temps d'attention du poisson rouge, vous savez, dont on dit qu'il a une mémoire défaillante. Ils l'ont calculé à 8 secondes. Et puis, ils ont calculé le temps d'attention des nouvelles générations, celles qui sont nées avec un smartphone dans la main. Et ce temps d'attention est de 9 secondes. Une seconde nous sépare du poisson rouge.
Une fois qu'on sait ça, on va voir où ça nous mène, au cœur du livre, une théorie des neurosciences, le processus de récompense aléatoire. C'est l'expérience dite de Skinner qui remonte à 1931. Racontez cette expérience.
On a mis des souris dans une boîte, ou plutôt une souris dans une boîte, et dans cette boîte, un distributeur de nourriture. Premier cas, à chaque fois que la souris appuie sur le distributeur, de la nourriture tombe. La souris, bien vite, maîtrise le processus et appuie sur le bouton quand elle a faim. Deuxième cas, c'est aléatoire, c'est-à-dire de temps en temps, quand on appuie sur le bouton, de la nourriture tombe, de temps en temps, il n'en tombe pas, les quantités aussi varient. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? La souris appuie de façon compulsive, mais vraiment compulsive, sur le bouton, même quand elle est rassasiée et même quand elle dispose devant elle d'un grand tas de nourriture.
Et alors, en vous lisant Bruno Patino, j'ai découvert à quel point j'étais moi-même manipulé, parce qu'on est tous manipulés, vous-même vous exemptez pas de cette manipulation. Par exemple, sur Twitter, à ce sujet-là, vous écrivez « Le bric-à-brac désordonné des fils Twitter ou Facebook, où ce que l'on peut trouver va du sublime au minable, de l'utile au dérisoire, du sérieux au ridicule, produit l'effet d'une machine à sous qui délivre tantôt 5 centimes, tantôt 100 000 euros. » Et en fait, en vous lisant, j'ai compris que Twitter faisait exprès de m'envoyer des infos pour lesquels je n'ai strictement aucune appétence, pour m'accrocher à attendre le moment où là, ça va m'intéresser.
En fait, toutes ces sociétés ont envie, et c'est normal, de capter le plus de temps d'attention possible. Et donc, pour ce faire, c'est pas mal de nous hameçonner et de faire en sorte qu'on soit un peu dépendant de ça. Et donc, le mécanisme de la machine à sous aléatoire fait que, de façon compulsive, on les consulte, y compris quand on n'en ressent pas le besoin. Et bien, c'est cette façon-là dont beaucoup d'entre elles, en tout cas un certain nombre de réseaux sociaux, ont été dessinés et sont dessinés, de façon, encore une fois, à nous rendre compulsivement addicts à leur consultation, même quand on n'en ressent pas le besoin.
Vous dites addict, qu'on peut dire aussi accro, c'est pas trop fort, c'est approprié. Vous comparez ça à la cigarette, à d'autres choses, à d'autres addictions?
Écoutez, au départ, vous avez dit que je ne m'exemptais pas de ce qui se passait. Je me suis moi-même observé et j'ai vu que je n'arrêtais pas mon portable quand je le voulais, en fait. Donc, c'est un système qui tient à la dépendance. Et puis après, quand on étudie, on voit que des vrais mécanismes de dépendance, réellement, quasiment médicaux, sont en jeu avec notre portable et avec certaines applications.
Vous parlez d'un utilisateur qui vous ressemble beaucoup, vous, c'est peut-être vous. L'an dernier, vous avez consulté votre smartphone, si j'ai bien compris, près de 198 000 fois, soit 542 fois par jour, ou encore 30 fois par heure éveillée. Le chiffre peut faire frémir, mais on peut également se dire qu'un smartphone remplace désormais la télévision, la radio, les télégrammes à l'ancienne, l'agenda, la carte routière, le carnet d'adresses, et surtout la presse écrite. Quand on passait autrefois 3 heures de la journée à lire la presse, plus 2 heures au cinéma, ça posait aucun problème. Où est le danger de regarder tout le temps son portable?
En fait, ce qui change, c'est que nos journées font plus 24 heures. C'est-à-dire que le portable et certaines applications numériques, elles nous sollicitent, y compris quand on est préoccupé à faire autre chose. Et comme aujourd'hui, on est connecté de façon permanente, eh bien, ça nous détourne de la tâche qu'on est en train de faire. Et donc, on fait autre chose. Et donc, ça baisse la qualité de ce qu'on est en train de faire.
Alors, Internet, c'est pas seulement, dites-vous, un danger pour notre petite personne, mais quasiment, j'emploie les grands mots, pour la société et la démocratie.
En fait, ce n'est pas Internet, parce qu'encore une fois, ce dont on parle là, c'est une petite partie d'Internet, mais c'est une toute petite partie d'Internet qui nous prend la plus grosse partie de notre temps.
Et qui est la plus vue, exactement.
Qui est la plus vue, la plus consultée, qui nous hameçonne justement et qui nous attire le plus. Donc, c'est 20% ou 30% de l'Internet, ce pourcentage-là, je le dis évidemment totalement au hasard, mais c'est 80% ou 90% de notre temps passé de façon connectée. Et là, oui, parce qu'encore une fois, comme le but, c'est d'attirer le plus possible notre attention, eh bien, d'un point de vue personnel, ça nous rend accro. Et du point de vue collectif, ça tend à coller le plus possible à nos émotions et donc à nous polariser.
Alors vous êtes directeur éditorial d'Arte, parmi votre public et surtout parmi votre futur public, il y a les millennials et leur fameuse concentration limitée à 9 secondes. Quelle alternative vous avez en tant que patron de chaîne? Vous adressez à eux avec des programmes de plus en plus rythmés, hachés, saccadés pour retenir leur attention, ou au contraire privilégier ce qu'on appelle le temps long, la durée, et vous résigner à les voir vous échapper?
Écoutez, c'est une excellente question parce que c'est évidemment le dilemme dans lequel on est tous. C'est-à-dire que d'un côté, il faut être là où ils sont, et ils sont sur ces plateformes sociales, sur les réseaux sociaux, et en même temps, je pense que ce qu'on peut leur apporter de plus précieux, c'est du temps. Justement, ce que les autres leur veulent.
Ah ouais, mais s'ils n'en veulent pas.
Êtes-vous sûr qu'ils n'en veulent pas? Donc, si vous voulez, toute la problématique, elle est évidemment là, d'être là où ils sont, et de faire un petit pas de côté quand on est là où ils sont, de façon à leur proposer quelque chose d'un peu moins rythmé et d'un peu moins saccadé.
Alors, j'ai trouvé quand même le pas de côté, puisque vous parlez de l'addiction aux séries, notamment via la plateforme Netflix, et Arte se met de plus en plus aux séries. Ça vous fait sourire?
Oui, ça me fait sourire, parce qu'encore une fois, c'est pas la série en elle-même qui est addictive, c'est un certain mécanisme dans la série. Tout média est un média d'habitude. Mmh. Et l'habitude et l'addiction, c'est très différent. Parce qu'une habitude, on en est maître, alors qu'une addiction, elle est maître de vous-même. Et donc, l'ambiguïté, c'est de ne pas confondre l'un avec l'autre. Et encore une fois, moi, je reste quelqu'un qui est absolument persuadé que le numérique apporte plein de solutions et plein de champs importants. Mais encore une fois, ce sont les mécanismes d'addiction, c'est-à-dire de captation involontaire de notre part de l'attention, qui sont absolument à proscrire.
Dernière question, puisqu'on parle d'habitude, vous me confirmez que 28 minutes va désormais être diffusée 7 jours sur 7?
Pour l'instant, 28 minutes est diffusé 6 jours sur 7 et c'est déjà une belle réussite.
Donc vous ne confirmez pas?
Je ne confirme jamais.
Vous infirmez?
Je n'infirme jamais.
Merci beaucoup Bruno Patineau, patron directeur éditorial d'Arte France. Vous publiez chez Grasset La civilisation du poisson rouge.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, on reste dans les médias avec le replay télé des Varocs. Et puis c'est presque l'heure de l'apéro et donc de la planche apéro. Et ça va faire plaisir à Marlène puisqu'on va parler de vin avec Laura Vidal du restaurant La Mercerie à Marseille. Ce son n'était pas un trucage, c'était Marlène. À tout de suite.
h 49, la suite de notre page média sur Europe 1 avec vous Philippe Vandel.
Bonsoir Eva Roque.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
C'est l'heure de notre séance de rattrapage avec la sélection des trois programmes qui ont retenu votre attention, trois programmes à la télévision et que vous nous conseillez de voir ou de revoir sur les sites des différentes chaînes.
Quatre programmes, Philippe, semaine. J'en ai fait un plus et vous allez comprendre pourquoi. En fait, je vous propose de débuter avec une fiction française qui a été diffusée mardi soir sur France 3 qui est intitulée Le Voyageur. C'est un polar qui nous embarque dans la petite ville de Montalier. Là, une jeune femme de 20 ans qui venait y rejoindre sa mère, Christine, est enlevée et un enlèvement qui intervient alors que le corps d'une autre fille vient d'être découvert et que plusieurs cas de kidnapping ont depuis quelques années traumatisé la région. Et c'est le capitaine Cessna qui mène l'enquête. Mais un autre homme débarque dans le paysage, un ancien flic qui continue d'enquêter. Un taiseux, il vit dans un van, un type un peu étrange, mais en qui Christine, la mère de la jeune fille enlevée, va avoir confiance. Il s'appelle Thomas Bareski et il est incarné par quelqu'un que vous connaissez.
En fait, votre vie, c'est enquêter.
Non, j'ai jamais enquêté, même quand j'étais flic. Je flaire, je traque, je perçois, je devine. Moi, je suis l'ennemi des tueurs, de tous ceux qui prennent le malin plaisir à faire du mal.
Je le reconnais.
Oui.
Un peintre.
Mais oui, un peintre, Eric Cantona. Eric Cantona qui excelle dans ses rôles de personnages tourmentés. Alors, barbe fournie, une espèce d'ermite sortie de nulle part. Il s'impose donc comme le justicier. Tous les comédiens qui l'entourent sont excellents, notamment Audrey Dana dans La peau de la mère de famille. Et il était assez évident que si des audiences étaient au rendez-vous, une série allait naître. Et d'après vous?
Dites.
Bim, 4 600 000 téléspectateurs.
Oh, dis donc.
Et une série en développement. Et voilà.
Donc on va la revoir la saison prochaine.
Exactement.
Alors vous poursuivez avec
à revoir
une...
sur France.tv, pardon, Philippe.
Oui, en attendant que ce soit la saison prochaine.
Exactement.
Vous poursuivez, Eva, avec une autre série.
Totalement différente et pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. À quoi vous fait penser cette musique?
Mmh. Ça fait Sergio Leone, ça fait western.
Exactement, un western moderne. J'ai eu un coup de cœur pour Mystery Road, diffusé jeudi soir sur Arte, direction un immense ranch dans le désert australien, où deux jeunes hommes ont disparu. Emma James, qui est une femme de caractère, chef de la police locale, voit débarquer en renfort un autre flic aux allures de cow-boy et aux origines aborigènes, Jay Swan, et entre eux, ça va être très compliqué. J'ai adoré cette nouvelle série australienne, alors pour l'intrigue évidemment, mais aussi par l'aspect politique, parce qu'il y a question de l'opposition entre les blancs et les aborigènes, et surtout l'esthétisme de la série. Chaque plan est une merveille, tant sur les paysages que sur les personnages. Ça, à tel point qu'en fait la région aride de l'Australie devient un personnage en tant que tel dans cette enquête. La mise en scène est parfois contemplative, mais c'est absolument délicieux et c'est à revoir sur arte.tv.
Et vous avez encore une autre série, Eva, à nous proposer.
Vous allez adorer. Ouais. Série sans images. Est-ce que vous connaissez Calls ?
Calls, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vu. C'est des coups de fil.
C'est des coups de fil, exactement. Calls, c'est un écran noir avec quelques points lumineux. Seuls les prénoms des interlocuteurs que vous allez entendre apparaissent. Et c'est tout. C'est une série sonore qui joue sur le suspense et l'angoisse. Notamment, par exemple, quand Emily, une jeune aveugle, est persuadée que quelqu'un est dans son appartement. Et apparemment, elle a raison. Ce qui est absolument subjugant dans cette série, c'est qu'on reste bloqué devant l'écran. C'est pas un programme radio, c'est une expérience à part entière. Vous n'arrivez pas à décrocher. Vous regardez ces points lumineux et vous êtes dans cette ambiance sonore avec parmi les voix, vous allez reconnaître Simon Astier, Mathieu Kassovitz, Marie Gillin, Sarah Giraudot, Lambert Wilson, Karine Viard. C'est totalement addictif et c'est à découvrir sur le site de Canal+. Je pense que vous allez adorer, Philippe.
Je vais regarder.
Et parce que je ne peux pas vous quitter sans musique.
Ah non, c'est la tradition.
Une diva. Hier soir, Arte diffusait un excellent documentaire, Les Divas des années 90. Whitney Houston, Mariah Carey et Céline Dion. Céline Dion capable de tenir cette note pendant 8 secondes. Pour comprendre en quoi ces trois artistes se ressemblent, eh bien rendez-vous sur arte.tv, vous n'allez pas le regretter.
8 secondes, c'est le temps de concentration de mes enfants. Merci beaucoup Eva Rock. Non, je plaisante, c'est au moins 12.
Comme les poissons rouges.
18h54, c'est l'heure de la planche apéro sur Europe 1. Philippe Vandel, vous étiez à Marseille dans le cadre de l'opération Année de la gastronomie en Provence. Et je sens que ça va m'intéresser.
Laura Vidal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la chef de la mercerie à Marseille. On m'a dit que vous étiez québécoise.
Je suis québécoise, née à Montréal.
Et c'est quoi cet accent ?
Bah, ma mère est moitié française. J'ai passé tous mes étés dans le sud de la France et j'ai fait le système français au Canada. Ben, en fait, au Québec, on tutoie. Fait que si tu veux, je peux te parler avec l'accent, mais je fais vraiment un effort. En général, quand je parle avec les Français, je parle français avec l'accent français. Donc, c'est très caméléonesque, en fait, finalement.
C'est quoi le principe de la mercerie, ici ?
Moi, je suis sommelière, donc je suis centrée sur le vin à la mercerie. Après, l'idée, c'est de toujours travailler avec des produits frais. On essaie de travailler avec des produits faits par des gens qui sont honnêtes, qui travaillent la terre, qui s'occupent vraiment de tout ce qui est le terroir. Donc, dans les vins, on a une carte des vins qui est plutôt axée sur les vins vivants, les petits producteurs.
C'est quoi des vins vivants ?
Les vins vivants, ce sont des vins en fait qui sont pour la majorité issus d'une viticulture au minimum en bio, voire en biodynamie. Donc la biodynamie, tout simplement, c'est une façon de faire de la prévention au niveau de l'agriculture, au-delà encore plus du bio.
Les autres, c'est des vins morts ?
Ils sont moins vivants, on peut dire. Je ne veux pas dire qu'ils sont morts, mais tout simplement, quand on filtre un vin stérilement, on lui enlève en fait toute possibilité d'évoluer. Donc en fait, les vins, quand on y pense, on ouvre une bouteille un jour, je ne sais pas, où il fait très beau dehors et ça ne goûtera pas la même chose que dans 2 semaines plus tard ou peut-être qu'il y a un gros orage et en fait, c'est une question d'énergie.
Alors, pour l'apéro, qu'est-ce que vous proposez ?
J'adore les pétillants naturels. Pétillants naturels, en fait, c'est de la bulle. Donc, on pense souvent à des champagnes. Le champagne, c'est quelque chose qui a subi 2 fermentations. Donc, il y a une bulle qui est très fine, mais contrôlée. Pétillant naturel, en fait, c'est une fermentation qui commence comme un vin classique, mais on arrête la fermentation en mettant le vin directement en bouteille et ça continue à créer du gaz dans la bouteille. Donc, on a une fine bulle et c'est souvent quelque chose qui est très rafraîchissant, très facile à boire. Souvent, il n'y a pas de soufre qui a été rajouté, il n'y a pas eu de filtration. C'est un vin qui est parfois un peu trouble, mais qui est très festif.
Et qui fait moins mal à la tête ou c'est une légende ?
Si vous en buvez 3, vous allez avoir mal à la tête quand même.
Alors avec modération, avec ça, on peut grignoter quelque chose. Qu'est-ce que vous proposez pour l'apéro ?
Ça peut être toutes les choses en fait qu'on n'utilise pas nécessairement, par exemple pour les plats ou pour les entrées. On va faire le soir un menu dégustation à la mercerie. Donc vous allez avoir des choses en surprise, vous savez pas ce que vous allez manger. On va préparer par exemple, on va récupérer l'animal entier. Donc là on a des canards magnifiques. On va récupérer les riz des canards et on va les frire dans un petit tempura. On va les servir avec une purée de kumquat confit par exemple.
C'est comme les riz de veau, mais c'est tout petit. Des riz de canard, c'est gros comment ?
C'est à peu près la taille du pouce, donc très petit, mais délicieux, même texture, croustillant, et les gens en général en font qu'une bouchée, donc c'est nickel pour l'apéro.
Merci beaucoup Laura Vidal. On rappelle le nom du resto ici à Marseille.
La Mercerie, 9 cours Saint-Louis.
C'était une mercerie avant ?
Une mercerie historique de Marseille, la Mercerie 4.
4 comme un chat ?
4 CAT, comme un chat.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 19h avec Sophie Dussault. A tout de suite sur Europe 1.
18h, 20h.
Philippe Vandel sur Europe 1.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour de l'info et des infos. Après le journal de Sophie Tussaud, le journal des sports printaniers et la météo estivale, ne manquez pas notre demi-heure culturelle avec le volubile Franz-Olivier Gisbert. On va également parler de BD avec le retour de Blake et Mortimer par Thierry Geffrotin et on va vivre une expérience de fou chez les Schtroumpfs avec Victor Dolande. Ce sera à 19h15 car ensuite, on va filer à Roland-Garros pour un bilan de la journée avec Corinne Boulou et notre consultant Cédric Pioline pour son fameux service Pioline.
On a l'occasion de nous laisser un petit commentaire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il est 19h. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Merci d'écouter Europe 1. Et tout de suite, le journal. Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Les tarifs de l'électricité grimpent de 5,9% à compter d'aujourd'hui. Une hausse que justifie la commission de régulation de l'énergie. Les familles des victimes du crash du Rio Paris réunies aujourd'hui au cimetière du Père Lachaise dans la capitale. L'accident est survenu il y a exactement 10 ans. Au moins 12 morts dans une fusillade aux États-Unis en Virginie. Rien n'explique pour l'instant pourquoi un employé municipal a tiré sur ses collègues. Et puis le beau temps, partout en France, l'été et les grandes vacances avant l'heure. Vous êtes nombreux à avoir choisi la Normandie pour en profiter.
Europe 1.
La facture d'électricité est désormais plus chère.
Elle augmente de 5,9% à partir d'aujourd'hui, ce qui représente 85 euros en moyenne par an pour les 28 millions de foyers concernés. Une hausse justifiée ce matin par la Commission de régulation de l'énergie. Seulement, Jean-Gabriel Bourgeois, les associations de consommateurs, eux, ont une autre explication.
Oui, 5,9%, c'est la plus forte hausse des prix depuis 20 ans. Ça représente en moyenne 7 euros par mois en plus sur votre facture. Une augmentation qu'a justifié ce matin sur Europe 1 le président de la commission de régulation de l'énergie, Jean-François Carenco.
Sur le prix 5,9, ça reste quand même 85 euros par an. Pour faire la transition énergétique, préserver la sécurité de nos approvisionnements, la qualité de notre énergie et des prix sur le long terme raisonnable.
La commission fait fausse route, rétorque ce soir l'association de consommateurs CLCV. Pour son délégué général François Carlier, si les tarifs de l'électricité augmentent autant, c'est pour faire vivre les concurrents.
Cette hausse de 6%, en fait, la moitié, c'est l'augmentation des coûts d'EDF. Et l'autre moitié, ça n'a absolument rien à voir. C'est simplement que les opérateurs alternatifs, la concurrence, a des problèmes d'accès au nucléaire. Ils ont des surcoûts. Et pour compenser ce surcoût, pour que la concurrence survive, eh bien, on augmente le tarif réglementé d'EDF. Ça n'a absolument rien à voir avec la transition énergétique ou avec la sécurisation nucléaire.
La CLCV et UFC Que Choisir ont d'ailleurs décidé de saisir le Conseil d'État pour faire annuler cette hausse.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois pour cet éclairage. La mobilisation des Gilets jaunes continue de s'essouffler après le revers électoral aux élections européennes. La participation baisse encore. 2600 personnes ont été recensées par le ministère de l'Intérieur à 14h partout en France, dont la moitié à Paris. Demain, les Gilets jaunes ont à nouveau prévu de se rassembler dans la capitale avec notamment une marche des blessés. Et dans la foulée de leur bon score la semaine dernière aux élections européennes, les Verts, eux, ont désigné aujourd'hui leur tête de liste pour les municipales à Paris l'année prochaine. C'est David Béliard, le chef de file du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, qui a été élu.
David Béliard qui sera mon invité demain dans le 18-20. C'était il y a 10 ans,
le crash du Rio Paris.
Le vol Air France AF447 s'abîmait dans l'océan Atlantique avec 228 passagers et membres d'équipage à bord. Pour saluer leur mémoire, une cérémonie a eu lieu aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise à Paris, dans l'intimité des familles venues du monde entier. Si l'enquête a mis en lumière les défaillances techniques et humaines, la justice ne s'est toujours pas prononcée sur la tenue d'un éventuel procès et les familles restent dans l'attente, comme Ophélie Touliou qui a perdu son frère Nicolas dans l'accident. Elle est membre de l'association AF447.
Ça marque l'aboutissement d'un cycle, en fait, ces 10 ans, symboliquement, ils sont très forts. C'est long 10 ans, et en fait, on a vraiment l'impression que c'était hier. C'est une journée au cours de laquelle on se recueille tous, on est ensemble, on pense à eux, le temps s'arrête, et il n'y a plus que qui compte. On sait qu'on est à l'aube de la décision du procureur de Paris. Nous, on attend un renvoi, évidemment, d'Airbus et d'Air France. En tout cas, un procès pour qu'il y ait un débat public sur cet événement qui a marqué les mémoires. Que justice soit faite, c'est nécessaire à la reconstruction aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de procès, c'est comme s'il n'y avait pas de responsable. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance à retenir toujours la faute des pilotes comme étant le dernier élément de la chaîne. Pour nous, c'est un peu la facilité. Il y a des choses à aller chercher, des causes initiales qui ont conduit à ce crash. Et c'est important, voilà, de mettre le doigt dessus et que justice soit faite pour leur mémoire, pour pas qu'ils soient morts pour rien. Parce qu'on va aussi de la sécurité aérienne de nous tous, citoyens qui prenons des vols tous les jours.
Ophélie Touliou, membre de l'association AF447 au micro européen de Marguerite Lefebvre.
On part aux États-Unis maintenant. Le choc à Virginia Beach après la fusillade de la nuit dernière.
12 personnes ont été tuées par un employé municipal d'une station balnéaire de Virginie. 4 autres ont été grièvement blessées. L'homme a ouvert le feu sur ses collègues dans un bâtiment de la ville. Sonia Dridi, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Washington et on en sait désormais davantage sur le tireur.
Oui, les autorités ont identifié le tireur aujourd'hui. Il s'agit de Dwayne Craddock, 40 ans. Cet ancien membre de l'armée américaine était ingénieur des travaux publics de la ville depuis environ 15 ans. La police n'a pas encore dévoilé les motifs de son geste. D'après le Wall Street Journal, il aurait été récemment licencié. Des voisins le décrivent comme quelqu'un de solitaire. Hier, en fin d'après-midi, il est entré dans un bâtiment municipal qu'il connaissait bien et a tiré à l'aveugle sur les personnes qui se trouvaient sur son passage. Au bout de quelques minutes, la police est arrivée. Il y a eu un long échange de tirs entre des officiers et le suspect. Le tireur a finalement succombé à ses blessures. Il s'est servi d'un pistolet de calibre 45. D'autres armes, dont un fusil d'assaut, ont été retrouvées sur place et chez lui. Les enquêteurs parlent d'une scène de crime horrible. Ce matin, les photos des victimes, 7 hommes et 5 femmes, ont été projetées lors d'une conférence de presse. Parmi elles, Richard Nettleton, un technicien municipal qui travaillait depuis 28 ans pour la ville, ou encore Michel Langer, employé municipal depuis 12 ans.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 Washington.
Europe 1.
Du soleil pour tout le monde ce week-end en France. Reportage Les Pieds dans l'eau, juste après une courte pause.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 19h07, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Du nord au sud et d'est en ouest, il a fait beau partout en France aujourd'hui.
Un beau soleil pendant le long week-end de l'Ascension, l'occasion de s'offrir un avant-goût de grandes vacances, comme en Normandie, dans le Calvados, près des plages du débarquement. Où vous vous trouvez, Kevin Tuillier?
Ah oui, les transats et les serviettes de bain sont enfin sortis du placard. Ils sont nombreux à avoir profité d'un grand soleil et des balades sur les longues plages normandes. Après un long printemps, il était temps pour cette Parisienne.
On a du mal à s'installer vraiment dans le printemps et puis l'été qui arrive. Et de retrouver le soleil au bord de la mer, avec ses couleurs, cette verdure, c'est ressourçant, enfin.
Au bord de l'eau, peu de courageux osent piquer une tête dans une mer à 15 degrés, sauf les locaux comme Jean-Louis, bien content de s'offrir son premier bain de l'année.
Elle est froide, 15-16 degrés, mais pas plus. Mais ça va. Pour le premier bain, c'est agréable, on s'est fait plaisir. On est comme de la région.
Et certains parents profitent du week-end prolongé pour se reposer et faire garder les enfants par une mamie un poil débordé.
Oh bah on s'organise comme on peut. Alors déjà, j'en prends que 2, voire 3 maximum. Puis c'est des filles, hein. Comprenez que c'est pas facile.
On a fait bronzette et après on a été dans la mer. On a eu une semaine sans être à l'école. Et donc oui, ça fait comme des vacances.
On n'a pas eu de printemps et puis... On essaie d'en profiter un maximum quand même.
Un air de vacances qui va se prolonger demain sur les plages normandes où on attend jusqu'à 24 degrés.
Et Kevin Tullier en Normandie pour Europe 1.
Et puis dans un mois tout juste, les véhicules diesel de plus de 18 ans ne pourront plus circuler dans les communes du Grand Paris.
79 communes au total. L'objectif, c'est bien sûr de lutter contre la pollution. Sauf qu'à un mois de la mise en œuvre de cette mesure, moins de la moitié des maires ont signé des arrêtés municipaux pour la faire appliquer. Ils dénoncent le manque d'aide financière pour leurs administrés. Théo Manval.
En principe, dans un mois, Harry ne pourra plus utiliser son vieux Mercedes pour faire les 60 km qui séparent son domicile de la triperie qu'il tient à Saint-Denis.
C'est un camion frigorifique, il a plus de 20 ans.
Trop vieux, il va tomber sous le coup de l'interdiction de circuler dans le Grand Paris.
Ça obligerait à trouver un pas trop cher. Celui que j'avais, il coûte 42 000 euros. Ce qu'il veut, c'est nous obliger à acheter soit électrique ou hybride. Ça coûte le double.
La métropole dit qu'il y a des aides financières.
Sur 42 000, et ils vont nous donner comment ? 3 000 à tout casser, ça ne change rien du tout.
Et c'est entre autres pour cette raison que plus de 40 maires sur les 78 de la métropole refusent pour l'instant de signer l'arrêté qui fera appliquer la mesure. La hausse des carburants avait été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Le sujet de la voiture est donc inflammable. À Saint-Denis, le maire communiste Laurent Russier a toujours dit son opposition.
Dans l'état actuel des choses, j'ai 7000 véhicules, donc 7000 propriétaires à qui je devrais expliquer demain, désolé, vous ne pouvez plus rouler à Saint-Denis, votre véhicule est trop polluant. C'est souvent les plus modestes, ils n'ont jamais eu les moyens de changer de véhicule.
Le président du Grand Paris, Patrick Ollier, se donne 2 ans pour tenter de convaincre encore et promet qu'il n'y aura pas de PV pour les conducteurs d'ici 2021.
Le reportage de Théo Manval.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie.
Europe 1, 19h10.
La météo, avec vous Valérie Darmon. Demain, il fait encore chaud, mais le temps se brouille un peu par l'ouest.
Oui, tout à fait. C'est le soleil qui domine encore sur la moitié est parce qu'on a une dégradation qui s'annonce par l'ouest. Alors cela dit, malgré quelques grisailles côtières le matin sur les côtes landaises, autour du golfe du Lion et sur la côte d'Azur, et malgré quelques cumulus l'après-midi sur le relief, donnant un petit risque d'ondées sur le sud des Alpes et les Pyrénées, il va continuer de faire globalement très beau. Les nuages élevés envahissent progressivement la moitié ouest, apportent en après-midi quelques ondées, et les nuages s'épaississent de la Bretagne au Cotentin, s'accompagnant de pluies faibles en fin de journée. Les minimales, elles seront toujours douces, 13 à 17 degrés. Les maximales en légère baisse à l'ouest, avec 20 à 25 de la Bretagne à la côte Aquitaine ou sur le littoral méditerranéen. Et avoisinant, les 30-31 dans l'intérieur du pays, avec 32 dans le centre et dans l'est de la France.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous Simon Rubin, rebonsoir.
Rebonsoir.
Et on va commencer par du foot, on est à moins de 2 heures du coup d'envoi de la finale de la Champions League.
Liverpool, finaliste malheureux l'an passé, affronte Tottenham, le club d'Hugo Lloris notamment. Finale attendue hein, qui marque cette année la supériorité du foot anglais sur l'Europe. Et je le disais, Liverpool qui rêve de prendre sa revanche. L'équipe de Jürgen Klopp semble légèrement favorite par son expérience, son histoire. Julien Froment, est-ce qu'on se dit que c'est enfin la bonne ?
Bah en tout cas, c'est ce qu'espère. Hein. Jürgen Klopp, il est toujours placé, mais jamais gagnant en Ligue des Champions. C'est un peu je t'aime moi non plus. 2 finales disputées avec Dortmund en 2013 et donc Liverpool l'an passé pour 2 défaites. L'Allemand d'ailleurs préfère en rire. Je ne suis pas un loser, mais plutôt le recordman du monde des demi-finales gagnées. Mais après être revenu de l'enfer hein, contre Barcelone en demi-finale grâce à une improbable raid montada, Liverpool, eh bien cette fois-ci, ne veut pas rater l'occasion de décrocher une 6e Ligue des Champions. Ce serait la première depuis 2005. À l'époque, on avait parlé du miracle d'Istanbul. Eh bien, cette fois-ci, les dizaines de milliers de supporters présents espèrent vivre la consécration de Madrid.
Julien Froment.
Et les deux équipes sont rencontrées toute l'année cette saison en championnat. Est-ce qu'il y a un favori ?
Deux matchs, deux victoires pour Liverpool face à Tottenham en Première Ligue.
C'est assez clair. Et pendant ce temps-là, hein, les joueurs de l'équipe de France de foot, eux, eh bien, ils préparent leur match amical. C'est demain contre la Bolivie, un match qui préfigure hein, surtout l'entrée en lice dans une semaine pour les qualifications de l'Euro 2020. Raphaël Varane, qui est défenseur des Bleus, sera ce soir devant sa télé pour cette finale de Ligue des Champions. Et ça change, c'est une nouveauté pour celui qui a remporté les 3 dernières éditions de la compétition. C'était avec le Real.
C'est vrai que ça faisait un petit moment où on était habitué à des finales de Ligue des Champions. Voilà, là on va regarder devant la télé. Je me suis fait un peu charrier aussi par Guy Stéphane qui me disait voilà, tu vas découvrir ce que c'est un début de stage au mois de juin. Voilà, moi ça me fait plaisir, je le prends avec le sourire. Ça a été une année incroyable en Ligue des Champions avec des retournements de situation et des matchs assez fous. J'espère qu'on verra un très beau spectacle ce soir.
Raphaël Varane au micro de Cyril de la Morinerie.
Et puis un mot de rugby maintenant, on connaît les affiches des demi-finales du top 14.
Alors Toulouse hein, affrontera La Rochelle qui s'est qualifiée hier et puis Lyon s'est qualifié à son tour il y a quelques instants après une victoire 21 21-16 sur Montpellier. Les Lyonnais qui affronteront Clermont en demi-finale. Tout se passera à Bordeaux le week-end prochain.
Et maintenant, on passe au tennis, le tournoi de Roland-Garros.
Roland-Garros 2019.
Jeux, sets et matchs.
L'événement tennis est sur Europe 1.
Retrouvez Corinne Boulou au bord des cours. Alors, pas de miracle pour Antoine Wang, balayé par Gaël Monfils au troisième tour. Corinne, c'était le duel français du jour.
Oui, il n'y a pas eu de suspense. Ce fut un match à sens unique. Gaël Monfils, tout en contrôle, s'est imposé en 2h03, 7-6-3, 6-2-6-3 face à son jeune compatriote Antoine Wang. La sensation française de la semaine à Roland-Garros sera la consolation d'avoir vécu pour son premier tournoi du Grand Chelem de belles émotions, avec notamment l'élimination de la tête de série espagnole Verdasco. Et ce match aujourd'hui sur le court Châtrier, après avoir écumé les courts annexes, pour Gaël Monfils, eh bien l'aventure se poursuit. Il n'aura pas laissé trop d'énergie aujourd'hui sur le court, dans la fournaise de la journée la plus chaude depuis le début du tournoi. Lundi, ce sera une autre histoire en huitième de finale pour le Parisien de 32 ans qui sera opposé au quatrième mondial et finaliste l'an passé, l'Autrichien Dominic Thiem.
Corinne Boulou et quelques autres résultats. Signalons les qualifications chez les garçons de Del Potro, Khachanov, Fonini, Zverev, Djokovic. Et puis chez les dames, l'élimination de la numéro 1 mondiale Osaka. Et en ce moment sur le court, Serena Williams qui est menée 4 jeux à 2 par sa compatriote Kenin.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Et c'était le journal des sports de Simon Rubin. Merci beaucoup, Simon.
Europe 1.
Dans un instant, avant de partir rejoindre Pioline à Roland-Garros, on va schtroumpfer la culture avec Victor Delande qui nous fait visiter l'expo consacrée aux petits êtres bleus. Thierry Geffrotin, notre schtroumpf à lunettes, sera là également, ainsi que Nicolas Caro, le schtroumpfoète, tous réunis autour du grand schtroumpf, notre invité Franz-Olivier Gisbert, qui peut également être le schtroumpf grognon.
Vous écoutez votre grand journal du soir qui se poursuit avec Philippe Vandel jusqu'à 20h sur Europe 1.
La demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Nicolas Caro et sa bibliothèque. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Philippe.
Thierry Geffrotin et son diapason. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Il est en train de ranger les disques qu'il a eu gratuitement. Et un petit nouveau ici, Victor Delande, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Victor Delande qui s'est transformé en schtroumpf, je ne vous dis que ça. Et notre invité, Franz-Olivier Gisbert, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, ancien patron du Point, présentateur d'émissions télé, chroniqueur, consultant un peu partout, romancier, essayiste. Et là, vous publiez un roman chez Gallimard, ça s'appelle Le Schmock. Tout d'abord, c'est qui le schmock et d'où vient ce mot?
C'est un mot yiddish qui veut dire trois choses, qui veut dire con, qui veut dire salaud et qui veut dire pénis, mais un pénis un peu du genre amolo.
D'accord.
Voilà. Donc c'est l'insulte suprême chez les yiddish. Yiddish, ce sont les juifs d'Europe de l'Est. Et là, par ce nom-là, je désigne Hitler. Mais c'est un nom que j'ai entendu dans ma jeunesse. Mon père utilisait ce mot. C'est très utilisé par les Américains. Mon père était américain. C'est un mot plutôt utilisé à New York, d'ailleurs. Mais enfin, aussi dans le reste de l'Amérique. C'est un mot qui est resté et qui veut dire vraiment... C'est vraiment une merde, quoi. Vous voyez, un schmock, c'est une merde. Et bon, c'était le mot qui était appliqué pour Hitler.
On l'appelait comme ça, Hitler, ou c'est
non,
votre papa?
Non, dans ma famille, j'ai entendu ça.
Ouais. Dans votre famille. Alors, c'est un roman très riche, très documenté et surtout très ambitieux. Ça se déroule sur un siècle et vous tentez de répondre à cette question en quatrième de couve. C'est le grand mystère du XXe siècle et je vous lis. Malgré toutes mes lectures sur la période hitlérienne, je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi tant d'Allemands bien, respectables, avaient pris à la légère la montée du nazisme, tandis que les Juifs tardaient étrangement à fuir. Pourquoi le nazisme a-t-il été possible dans ce grand pays de musiciens, de philosophes et de poètes? C'est une tellement bonne question que je vous la pose.
J'ai essayé de répondre à travers un roman. Alors évidemment, c'est plus facile de répondre à travers un roman qu'à travers un essai, par exemple. Parce que le roman, vous pouvez exploiter tous les genres en même temps, la philo, l'histoire, la documentation, le journalisme, et puis évidemment, et puis surtout, grâce aux personnages que vous avez inventés, vous pouvez transmettre des sensations, des sentiments, vous voyez. Donc, et moi, c'est vrai que c'est une question qui me préoccupait, c'est une question d'enfance d'ailleurs, c'est un livre, ça vient de mes tripes, parce que moi je suis moitié américain, mais j'ai une racine allemande assez forte, et puis je suis de sang très mêlé, il y a des sangs de toutes sortes, écossais, anglais, juifs, tout ce que vous voulez.
Il y a du juif et du pas juif, parce que oui, c'est une des questions de votre livre, voilà pourquoi je me permets de le dire.
Non mais c'est pas par rapport du tout, je suis pas assez juif pour me poser la question, vous voyez ce que je veux dire, j'ai ce sang juif au milieu d'autres
sangs. Mais alors votre thèse, parce que peut-être vous allez répondre en une seconde, oui. Ce à quoi Hannah Arendt n'a pas réussi à répondre dans toute sa vie.
Non, Hannah Arendt, c'est génial. J'adore Hannah Arendt. Je connais presque tous ses livres par cœur. Mais Hannah Arendt, c'est, comment dire, une théoricienne. Moi, j'ai vu ça comme romancier. C'est-à-dire, à la fois le côté farceur avec le mentir vrai, vous inventez des personnages, etc. Et puis, en même temps, ces personnages vous dépassent. Et puis, en même temps, bon, j'ai pu travailler, évidemment, comme quelqu'un qui fait des sciences humaines, c'est-à-dire pour essayer de comprendre la situation dans la société.
Vous voulez pas me répondre,
mais je suis en train de répondre.
Il faudra bientôt rendre l'antenne.
Mais vous dites que c'est une grande question. C'est une grande question, je ne peux pas répondre, comme
alors,
ça
votre thèse,
en 5 minutes.
Ah bah, la thèse, je veux dire, c'est ce que j'ai compris, c'est l'intelligence et la bêtise. Vous faites dire à votre héros Karl Gottsahl, nous nous sommes trompés parce que nous avons surestimé l'intelligence et la culture du peuple allemand et aussi parce que nous avons sous-estimé les capacités d'Hitler.
Ouais. Eh ben, je crois qu'il résume assez bien la situation, Karl Gottsahl. Lui, c'est un Allemand bourgeois, assez ouvert et qui est copain avec Hitler parce qu'il l'a connu pendant la guerre de 14-18, parce que évidemment à travers tout ça il y a un portrait d'Hitler. Ouais. Hitler était un personnage du livre, il apparaît dans la famille, c'est un ami de la famille, il vient dîner chez les Gottsahl d'ailleurs assez souvent,
et c'est pas
et on le voit. Oui, mais quand il parle, attention, parce que j'ai bossé comme un malade,
ça allait être ma question
suivante,
ce livre
a failli me rendre fou, j'ai bossé comme un malade, et quand il parle c'est toujours ce qu'il dit. Ouais. C'est-à-dire c'est très, comment dire, tout ce qu'il dit dans le livre c'est des choses qu'il a dites.
Il a dit
ce que je veux dire,
bien sûr, j'ai bien compris.
Dès que c'est un personnage historique, dès que c'est de l'histoire, moi je viens très con, très sérieux, là je me fais mon journaliste et je tiens à ce que ce soit vraiment très très proche de la réalité.
Et alors vous dites que les Allemands sont laissés berner, je vous cite, c'est votre thèse page 324, car on ne se méfie jamais assez des imbéciles. C'est un imbécile, Hitler ?
Bah, il est pas très malin. Non, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais il a eu un coup de bol formidable. Il a une qualité évidente, c'est un très bon orateur. Ça arrive chez les politiques, des tarés qui sont d'excellents orateurs. Il a été un très bon orateur pendant toute une partie de sa vie, surtout au début, ouais, où il faisait des imitations de ses adversaires, il les contredisait. Vous voyez, il savait à la fois faire rire, et puis brusquement, il faisait une colère. Enfin, ça, c'est des grands orateurs. On en a eu en France, puis on en aura encore. Ouais. Il y en a pour beaucoup en ce moment.
Il y en a qui se prennent pour la République.
Non, mais il y avait des gens autrefois, tiens, le ministre du général de Gaulle, Christian Fouché, je me souviens avec mon pote Jean-François Kahn, écouter à l'Assemblée nationale, c'était juste absolument incroyable. C'est des gens qui passent d'un genre à l'autre. Bon, il était capable de faire ça, mais il est con. C'est-à-dire qu'il rate tout. Non, mais attendez, il réussit évidemment par la violence, par la peur, par la terreur. Ben, quand il tue tous ses anciens camarades dans la
ligne Maginot. Enfin, il rate tout. La ligne Maginot, il nous a enfoncés en quelques mois.
Bien sûr, mais c'est nous qui avons été désastreux.
On a été encore plus con que le con, alors.
Mais oui, bien entendu. Ben, on était, enfin, cette histoire est juste horrible. Non, mais vous voyez, le vrai truc, au fond, c'est l'insouciance. C'est-à-dire, on laisse faire les choses. On dit, ah non, mais, il est trop bête pour arriver au pouvoir. Et quand il est au pouvoir, oh ben non, mais de toute façon, attendez, il fera pas ce qu'il a dit. Et puis en fait, il l'a fait parce que très vite, c'était un tel désastre qu'il a besoin de trouver des responsables. Il faut trouver des coupables. Et quand on cherche des coupables, c'est vrai que de temps en temps, enfin, on a souvent tendance à regarder du côté des Juifs.
Et c'est le bouc émissaire. Alors parfois, ouais, vous faites de la téléologie, c'est-à-dire que vous prédisez la météo de la veille, des fausses prophéties. Par exemple, page 91, on est au début de la guerre de 14-18, et vous écrivez « Cette guerre était idiote, et contrairement à beaucoup d'Allemands, Karl, qui avait l'intelligence des situations, en devinait l'issue dès le premier jour. »
Ouais, il y a plein d'Allemands.
Le gars, il a deviné la révolution de 17, et il savait que ça finirait en 18.
Vous savez, Gottsahl, à qui il pouvait ressembler peut-être ?
Dites.
À mon grand-père. Mon grand-père, il a quitté l'Allemagne parce qu'il avait la haine du Kaiser, un peu comme Karl Gottsahl.
Ouais.
Il disait, cette guerre, mais ça va être un désastre et tout, ça ne peut pas marcher. Enfin, il est parti fou de rage. Voilà, il est allé vivre aux États-Unis. Il a quitté l'Allemagne. Voilà, donc c'est une phrase que mon grand-père aurait dû prononcer et qu'il a prononcée.
Mon grand-père, il m'aurait dit, tu sais quoi, ça déborde. À tout de suite, on se retrouve avec Franz-Olivier Gisbert.
Il est 19h25, vous écoutez votre grand journal du soir, Philippe Vandel.
Suite de ce 18-20 culturel avec Franz-Olivier Gisbert qui vient de publier Le Schmock, c'est un roman, c'est chez Gallimard, c'est un roman historique, c'est l'histoire de plusieurs familles, des histoires d'amitié, des histoires d'amour, des histoires
d'amour,
de coucherie, des histoires
un
de tromperie.
Amour énorme qui va durer, je sais pas, presque 100 ans. Enfin,
exactement,
ouais,
avec l'homme le plus vieux qui existe.
Le plus vieux du monde.
Vous avez travaillé avec beaucoup de documentation.
Oui, comme un dingue. Oui, mais ça fait 10 ans. Vous savez, je prends des notes, j'ai une bibliothèque nazie incroyable.
Est-ce que vous avez mis des anachronismes pour vous marrer et pour égarer le lecteur que nous sommes ? Exemple d'anachronisme, l'abbé Schulz, qui aurait dit dans une messe à Munich, l'index pointé sur Hitler, qui se trouvait là, nous sommes tous des juifs allemands.
Non, il l'a jamais dit. Mais non, mais là, on est dans le roman, et dans le roman, vous avez tous les droits.
Ah, mais c'est ce que je vous demande, parce que vous venez de me dire que toutes les phrases d'Hitler étaient authentiques.
Mais bien sûr, mais là, c'est pas une phrase d'Hitler, je vous fais remarquer. Enfin, c'est pas Hitler qui l'a dit. Non.
J'ai bien compris.
C'est un index qui pointait sur lui, mais c'est pas lui qui
l'a dit. Et il y a même un gars des SA ou des SS qui se plaint qu'il y ait de l'antinazisme primaire, comme Georges Marchais qui dénonçait l'anticommunisme primaire.
Ah, vous avez bien lu, hein, c'est vrai. Mais.
J'ai tout lu.
Ce sont des blagues un peu, parce que, bon, ce dont je parle est extrêmement grave, mais moi, je suis faiseur. C'est-à-dire qu'il faut toujours de l'humour dans un livre. Il faut du suspense. Ce livre est à la fois une histoire d'amour, un thriller, et évidemment, il faut aussi de temps en temps rigoler. Même si c'est grave, même si c'est triste, même si c'est affreux.
Une petite absurdité relevée, vous dites qu'Hitler était présent aux funérailles de Kurt Eisner. Je vais essayer de résumer, c'est une sorte de prophète juif de gauche. Et vous ajoutez ses meilleurs biographes...
Qui était patron de la Bavière, hein, était premier ministre de la Bavière.
Vous ajoutez ses meilleurs biographes préfèrent passer ce fait sous silence. Mais alors, comment vous l'avez su à l'heure, si même les meilleurs biographes n'en parlent
parce
pas?
Parce que c'est contesté. C'est tout, c'est contesté.
Ah,
mais
on sait pas.
Oui, sur le problème, il y a des images. Et il y a un mec, vous regardez, travaillez un peu, vous verrez. Il y a un mec qui ressemble vraiment très étrangement à Hitler, à moins que ce soit un sosie, mais ça m'étonnerait, et qui est là, qui est présent, donc voilà.
J'ai une question sérieuse, puisque vous en parlez beaucoup, et une question
grave. J'ai bossé, camarade, j'ai bossé.
Je l'ai remarqué. Quel parallèle faites-vous entre l'Europe de 2019, on sort d'élections européennes, et les années 30? Est-ce que vous voyez, pour reprendre votre expression, le retour de la bête?
Je crois que la bête est toujours là. Mais alors attention, j'ai pas écrit ce livre pour dire attention, la bête revient.
J'ai bien compris.
J'ai eu cette idée déjà il y a très très longtemps, peut-être une vingtaine d'années, et je commence à bosser dessus depuis. J'ai commencé il y a 10 ans à peu près, hein, à construire les trucs. Et j'ai commencé à l'écrire il y a 3-4 ans, et j'arrivais pas. Et ça, comment dire, c'était trop lourd, c'était trop compliqué. Vous voyez, j'ai mis un temps fou en fait pour faire ce livre. Mais, donc j'ai décidé il y a longtemps. Mais c'est vrai que la bête est toujours là. Et au fond, vous me posez la question, mais vous auriez pu me poser la même question il y a 10 ans, il y a 20 ans, parce que la bête, elle est là.
Mais
et c'est ça, et c'est ça
pas,
qui est fascinant.
Mais il y a 20
c'est
ans, il n'y avait pas cette vague de populisme en Europe
qu'on
a vue.
Oui, il y avait le populisme, mais sinon la bête, elle est là d'une autre façon, d'une autre manière. Et on voit très bien, elle est là à travers mille choses. Elle est là à travers le populisme, elle est là à travers l'islamisme, elle est là à travers toutes sortes de dégénérescences idéologiques, de dérives, de tout ce que vous voulez, et elle est toujours là. Moi, c'est ça que je trouve. Et c'est effrayant, parce que c'est vraiment... C'est très particulier à l'Europe. Et l'Europe, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que c'est le berceau, on va croire le berceau des civilisations du monde, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Mais c'est vrai que l'Europe, elle croit qu'elle a une mission, et puis en fait, on voit très bien qu'elle est travaillée par des forces dégueulasses.
Moi, j'ai une mission, c'est de donner la parole à Nicolas Carreau. Cette semaine, vous nous proposez un roman d'aventure, Nicolas.
Belle mission.
Ah, trop facile.
Eh oui. La dernière croisade.
Ouais.
Indiana Jones, à la recherche du Graal. Il cherche la coupe du Christ. Bravo Thierry pour la musique, oui. Et les nazis aussi cherchent le Graal en même temps que lui. Il y a quelques points communs avec le nouveau roman du duo Giacometti-Ravenne, les Dan Brown français. Ça s'appelle La nuit du mal. C'est le deuxième tome de la trilogie Soleil Noir. Ne vous inquiétez pas, il y a un résumé très bien fait du tome 1 au début du tome 2. Les nazis ont mis la main sur un vieux manuscrit qui révèle l'existence de quatre reliques sacrées, des svastikas. Svastika, c'est une croix gammée. C'est donc le symbole qu'utilisera Hitler pour le nazisme. Je vous fais une transition terrible avec François-Olivier Gisbert. Mais c'est signe que l'on retrouve aussi dans de nombreuses cultures antiques.
Et elles ont un pouvoir magique, ces quatre svastikas?
Absolument. Chacune donne un pouvoir considérable à celui qui la détient. Et si vous réunissiez les quatre, c'est la domination absolue. Les nazis envoient donc une expédition SS au Tibet en 1939 pour s'en procurer une. Ensuite, en 1941, ils se rendent au château de Montségur en France pour trouver la deuxième. Les nazis sont aidés par un certain Tristan Marcas, c'est le héros. Mais il joue un double jeu, ce Tristan. Il travaille en fait avec les Anglais qui veulent eux aussi récupérer la relique.
Mais attendez, ça c'était le premier tome donc, mais le deuxième, parce que nous on est là pour le deuxième.
Il s'ouvre en Crète, il fait nuit, on est en pleine campagne, cinq paysans surveillent discrètement un groupe de soldats qui ont l'air de chercher quelque chose, et en fait ces Crétois sont des filaques, c'est-à-dire des gardiens. Ils sont armés de couteaux et ils fondent sans bruit sur les militaires qu'on devine être des nazis. En quelques secondes, ils sont tous morts. Ils sont sous les ordres en fait de Karl Esner, un archéologue chargé par Himmler de faire des fouilles sur les sites antiques. Il faut dire que certains dignitaires nazis étaient fascinés par l'occultisme et l'ésotérique. Ça, c'est pas de la fiction, n'est-ce pas?
C'est vrai, c'est Himmler surtout.
Et absolument. Et c'est dans cette histoire que Giacometti et Ravenne placent leur personnage. C'est le principe du roman historique.
Mais c'est plus Himmler qu'Hitler, hein, quand même.
Absolument. Mais quand même, Hitler avait cette volonté-là de chercher du pouvoir surnaturel dans l'occultisme. Les personnages fictifs et les personnages réels se croisent et interagissent. Ça crée une nouvelle forme de réalité. Hitler lui-même est dans le roman, bien sûr. Les chapitres qui le concernent s'intéressent
s'intéresse à sa jeunesse. Évidemment, il joue son rôle dans l'intrigue, mais mine de rien, on en apprend beaucoup sur l'accession d'Hitler au pouvoir, comment il est passé du quasi SDF qu'il était au Führer que l'on connaît. On voyage beaucoup aussi la Crète, donc, mais aussi Londres, Berlin, l'Italie. C'est un vrai bon thriller efficace, ésotérique, haletant, une sorte d'Indiana Jones, donc, sauf qu'il n'y a pas qu'un seul héros, il y a toute une galerie de personnages. On y jette un œil. Et c'est parti pour 400 pages.
Et encore, c'est que le deuxième tome d'une trilogie, donc La Nuit du Mal de Giacometti et Raven. C'est chez Jean-Claude Lattès. Merci Nicolas. On se retrouve dans un instant avec les Schtroumpfs, avec Black, avec Mortimer et avec François-Olivier Gisbert.
Europe 1 en direct de Roland-Garros.
Et avant de vous retrouver, Philippe Vandel, on va du côté de la Porte d'Auteuil rejoindre Corinne Boulou pour nous parler de cette ancienne vainqueur de Roland-Garros en difficulté manifestement.
Oui, c'est Serena Williams, voilà. Victorieuse à 3 reprises ici à Roland-Garros, qui était encore en finale il y a 2 ans, hein, ici même sur ce court Philippe Châtrier. Eh bien, Serena Williams est en grande difficulté face à sa compatriote Sofia Kenin, 35e mondiale, puisqu'elle est menée 1-7 à 0. Elle a perdu la première manche, Serena 6-2, et que dans la deuxième, eh bien, son adversaire, Sofia Kenin, a déjà fait le break pour mener 2-0. Autant vous dire qu'effectivement, il va falloir qu'elle se reprenne bien l'américaine Serena Williams si elle veut pouvoir espérer quelque chose dans ce match, mais c'est bien bien mal embarqué pour elle pour le moment.
Merci Corinne Boulou, on vous retrouve bien sûr dans moins d'un quart d'heure pour Service Pioline.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Hey Steph, regarde ce que j'ai pris aux enfants pour les vacances.
Waouh, mais c'est énorme.
C'est un bateau gonflable, quoi.
Un paquebot gonflable, tu veux dire? T'as payé ça combien?
Bah...
Ah bah du coup, t'as pas fait faire le contrôle de la voiture, alors?
Si, mais je vois pas le rapport.
Profitez encore plus de vos vacances et partez en toute sérénité avec le bilan départ en vacances offert et 6 mois d'assistance inclus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault?
Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 juillet 2019, voire conditions sur Renault.fr.
h 33, votre grand journal du soir se poursuit avec Philippe Vandel.
Suite et fin de cette demi-heure culturelle en compagnie de François-Olivier Gisbert. Le Schmock, ce n'est pas son surnom, ce n'est pas le Schtroumpf grognon, c'est le titre de son roman qu'il publie chez Gallimard. Et je me tourne vers vous, Thierry Geoffretin. C'est toujours un événement dans le monde de la BD, la sortie d'un nouvel album de Blake et Mortimer.
Ah ouais, ça c'est vrai.
Vous êtes d'accord?
Ah ouais.
Les deux héros anglais créés par Edgar P. Jacobs, auteur belge qui a travaillé avec Hergé, c'est tout dire. Vous avez donc lu Le Dernier Pharaon, Thierry. L'album est paru mercredi et vous m'avez dit c'est exceptionnel.
Exceptionnel, c'est le mot qui convient en effet pour parler de ce nouvel album édité, chez Blake & Mortimer, c'est le nom de la maison d'édition. D'abord, et c'est unique dans l'histoire d'un tel album, il n'y a pas 2 auteurs, un scénariste, un dessinateur, ils sont 4. Jacobs, pour la petite histoire, faisait tout seul. Hein. Donc 4 auteurs, tous sont belges, revendiquent l'héritage de Jacobs. Ensuite, exceptionnel, le choix de l'époque. Alors, on n'est plus dans les années 50, vous savez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on est dans les années 80, plus près de nous. Les deux héros ont donc pris un coup de vieux, ils sont d'ailleurs brouillés. Exceptionnel encore, la jeunesse de l'histoire. Il s'agit de quelques mots qu'on a trouvés dans un carnet de Jacobs lui-même. Il avait écrit Blake et Mortimer au palais de justice de Bruxelles. Bon, vous me direz que c'est très court pour imaginer une histoire. Et pourtant, c'est ainsi qu'est né Le Dernier Pharaon.
Et que raconte l'histoire?
Alors là, c'est digne aussi de Jacobs, qui avait une fascination pour le fantastique, pour l'histoire, avec un grand H, pour la science-fiction aussi. Alors cette fois, on est à Bruxelles, c'est encore exceptionnel, parce que jusque-là, c'était plutôt à Londres, vous voyez, ou en Égypte. Et plus précisément, au palais de justice de Bruxelles, d'où s'échappent de mystérieuses radiations qui entraînent la destruction des réseaux électriques et électroniques, c'est très inquiétant. Bruxelles a été évacuée de ses habitants, c'est devenu une ville morte, peuplée seulement d'animaux sauvages, enfin peut-être seulement d'animaux sauvages.
Alors c'est une histoire apocalyptique, et comment sont les dessins? Est-ce qu'ils sont à la hauteur du scénario?
Alors là, c'est aussi exceptionnel parce que François Skuyten n'a pas voulu imiter Jacobs. Voyez, il a pris des risques. Il a gardé son propre style qui est magnifique. Certains lecteurs vont sans doute être surpris. Certains vont d'ailleurs peut-être crier au sacrilège. En tout cas, François Skuyten assume.
Oui, je vais en décevoir certains, mais c'est le prix à payer. Il faut parfois un peu bousculer nos conservatismes et cette volonté toujours de retrouver ce qu'on a aimé. Je ne pouvais pas le faire à la façon d'eux. Il me semblait que c'était plus juste de le dessiner comme moi je pouvais le faire. La fidélité, j'essaie de la placer ailleurs.
Voilà, François Skuyten, fidèle à l'esprit de Jacobs, qui a travaillé, écoutez bien, pendant 4 ans. C'est un album, hein, il a fallu 4 ans avec 3 complices, je les cite, le cinéaste Jaco van Dormael, l'écrivain Thomas Gunsick et tous deux ont participé au scénario avec Skuyten, et Laurent Durieux qui a colorisé l'album, c'est vraiment très beau. Un quatuor de choc pour un album qui n'aura pas de suite, un one shot comme on dit, je vous l'avais dit, c'est exceptionnel.
Et ça sera pas, ce n'est pas de la ligne claire, ça vous inspire, François Gisbert?
Oui, en sortant, j'adore, c'est ce qu'il y a de mieux, évidemment, bon, ça sera jamais aussi bien qu'Hergé, mais c'est formidable, quoi.
Et les Schtroumpfs, ça vous parle?
Non.
Ça tombe bien, parce
non,
que...
Je suis désolé.
Non, non,
je suis désolé, mais je sais qu'il fallait dire oui.
Vous savez comment je suis, moi? Moi, je suis pour qu'on dise ce qu'on pense. Ouais, attention, vous êtes toujours un sale gosse. Il y a quelques mois, on fêtait les 60 ans des petits lutins bleus de Peyot, le dessinateur belge. Et à cette occasion, la société IMPS, qui exploite les droits liés à l'exploitation des Schtroumpfs, a voulu marquer le coup en lançant la Schtroumpf Expérience. C'est inauguré à Bruxelles. On reste dans la Belgique. L'expo est à Paris depuis 2 jours. Victor Dolande, rebonsoir. Vous avez la chance de vous glisser dans la peau de ces petits bonhommes tout bleus. Alors, c'est comment?
Alors, déjà, rendez-vous compte, j'ai dû réaliser une prouesse pour vous, Philippe. Je mesure à peu près 1m90 et pour les besoins de ce reportage, j'ai dû me faire un tout petit, haut comme 3 pommes. C'est parti, je vous embarque dans l'univers des Schtroumpfs. On suit tout un parcours, 1500 m², 9 salles, 9 ambiances différentes et dès les premiers mètres, on se retrouve dans la forêt des Schtroumpfs. On est accueilli par le Schtroumpf à lunettes qui apparaît dans un hologramme.
Voilà comment trouver le village Schtroumpf. Tout d'abord, vous devez contourner le gros arbre là-bas. Et puis, vous contournez le gros champignon rouge par la droite. En fait, par la gauche. Enfin, tout ce qui compte, c'est que vous passiez sous le rideau de fleurs. Allez, allez, il n'y a pas un Schtroumpf à perdre.
Donc on passe devant ce rideau de fleurs, face à nous une petite maison en forme de champignon, et à l'intérieur, la plus jolie des lutins bleus, j'ai nommé bien sûr la Schtroumpfette.
Quelle belle journée! Aujourd'hui, c'est le 7e jour après la lune bleue. Ça veut dire que ça va être une fête au village. Oh, ça va être trop Schtroumpf.
Grâce à des tablettes tactiles et des vidéos à 360 degrés, on se repère dans ce labyrinthe, dans une autre maison champignon. Le grand Schtroumpf nous prépare cette fois-ci une potion dans son gros chaudron.
Pour devenir un vrai Schtroumpf, il faut que vous schtroumpfiez mon élixir magique.
Avec cet élixir, vous allez pouvoir vous regarder dans des miroirs et voir la tête que vous avez dans la peau d'un Schtroumpf. C'est assez étrange, mais le résultat est sacrément schtroumpfant.
Mais on fait que se balader dans cette Schtroumpf expérience. On parle au Schtroumpf, d'accord, mais est-ce qu'il y a un but à part?
Mais bien sûr, bien sûr qu'il y a un but. Figurez-vous que nos petits copains tout bleus sont devenus écolos. C'est ouais. La mode. Dès le début, on nous explique que les Schtroumpfs travaillent pour protéger la planète.
Bien sûr.
Et surtout qu'il faut les aider à remplir 17 objectifs de développement durable qui vont de la faim zéro, personne ne doit mourir de faim, jusqu'à une éducation de qualité en passant par un travail décent, une consommation responsable. Mais attention, sur la route, vous croiserez forcément cette vieille canaille
de Gisbert.
Non, de Gargamel. Il a construit une machine pour dérégler le climat.
Il y a quelque chose.
Il va tout faire pour vous empêcher de remplir votre mission. D'ailleurs, j'ai une petite confession à vous faire. Moi-même, je me suis fait choper par Gargamel.
Je vous tiens, les mignons. Je n'attendais plus qu'à vous. Mais je vois en plus que vous êtes venus en nombre. Oh, comme c'est gentil d'avoir pensé à moi.
Avec le rire machiavélique en plus, bon, je ne vous dis pas tout, sauf que j'ai réussi quand même à lui échapper, à le ligoter même. Et pour terminer cette incroyable Schtroumpf expérience, on rejoint leur village à dos de cigogne, s'il vous plaît. Oh. Grâce à un casque de réalité virtuelle, c'est parti pour 10 minutes de traversée dans les airs autour du monde des Schtroumpfs. J'aurais juste un tout petit bémol pour cette exposition. Le prix comptait quand même 54 € pour une famille de 4 personnes, 2 adultes plus 2 enfants. C'est tout de même pas donné.
Et donc, si vous voulez vivre cette Schtroumpf expérience, c'est à Paris, au Parc des Expositions, Porte de Versailles. Et c'est jusqu'au 20 octobre prochain. Merci beaucoup, Victor Dolande. François-Olivier Gisbert, vous serez ce week-end à Nice. C'est le Festival du Livre de Nice. Vous êtes le directeur artistique, ça consiste en
bénévole,
quoi?
Bénévole, bénévole. Il y a plein d'auteurs qui sont là, évidemment. Et puis il y aura des conférences avec Michel Onfray, le philosophe, avec Jean-Jacques Hanau, le cinéaste, etc., etc., etc.
Et vous aussi?
Et beaucoup d'animations. Et ben moi je signerai, tranquillement, modestement.
D'accord. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, Le Schmock, c'est le dernier roman de François-Olivier Gisbert. C'est paru chez Gallimard. Merci à tous.
Europe 1.
Et dans un instant, on va partir à Roland-Garros pour faire le bilan des dernières rencontres du jour jusqu'à 20h. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Philippe Vandel.
Et comme tous les jours, vers 19h40, c'est Service Pioline. On va prendre tout de suite la direction de la Porte d'Auteuil, où on va retrouver Corinne Boulou et Cédric Pioline. Bonsoir.
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 Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous les deux. Comment ça se passe aujourd'hui? C'est quoi le fait du jour d'abord? Vous avez ressenti la chaleur, j'imagine.
Oh oui, ça c'est vrai qu'il faisait très très chaud sur tous les cours hein, d'ailleurs de Roland-Garros, Cédric. Mais bon, sincèrement pour les joueurs, ils sont habitués à, en tout cas, à devoir affronter des conditions comme ça. Mais c'est vrai que c'était la première fois depuis le début du tournoi qu'on avait ce temps-là.
C'était ouais, ils ont souffert.
Ah.
Ils ont souffert parce que il y a eu un 10 voire 15 degrés, entre 10 et 15 degrés de plus.
Ouais.
Que ces derniers jours et je peux vous dire que les joueurs ils l'ont bien senti sur le court, même si là le court central est à l'ombre maintenant.
Ouais. D'accord, on va en parler. Juste
c'est
une question
pour les joueuses.
Une question de débutant que je suis, est-ce que tous les joueurs souffrent de la même façon de la chaleur ou est-ce que ça avantage certains au détriment d'autres?
Non, il y a des joueurs qui en souffrent moins ou qui s'adaptent un petit peu plus vite. Donc, tout le monde n'est pas égaux face aux conditions.
D'accord. Alors, le fait du jour, c'est la qualification sans encombre de Gaël Monfils pour les huitièmes de finale. Racontez.
Oui, effectivement, hein, Gaël Monfils qui a mis fin au beau parcours du jeune français, son jeune compatriote de 23 ans, Antoine Ouang, qui est 146e mondial. Il va sans doute gagner quelques places au prochain classement mondial, puisqu'il a réussi pour la première fois, pour sa première participation à un tournoi du Grand Chelem ici à Roland-Garros, eh bien, à se hisser jusqu'au troisième tour, jusqu'au 16e de finale. Alors, c'est vrai que Cédric, Gaël Monfils s'est imposé en 2 heures, 6-3, 6-2, 6-3. Ce fut, on peut le dire, un match à sens unique. Il n'y a pas eu de vrai suspense, même si le jeune français a résisté et a tenté de faire des choses, hein, évidemment, sur le court. Mais lui qui écumait les cours annexes, de se retrouver aussi comme ça sur le court Philippe Châtrier, ça ne doit pas forcément être évident. Je ne sais pas comment vous avez géré ça la première fois que vous vous êtes retrouvé sur un grand court. Et en plus, face à Gaël Monfils, qui est une sorte de modèle pour lui, bah là, ça faisait peut-être un peu beaucoup.
Oui, il a été, comme on pouvait le soupçonner, un petit peu rattrapé par tout ça. Maintenant, je trouve que même si Gaël a bien fait le job en éteignant l'espoir qu'il pouvait avoir en rentrant que son adversaire pouvait avoir en rentrant sur le court, il a fait quand même un match Wang. Il n'a pas été ni ridicule. Il a fait vraiment des belles séquences, montré qu'il n'était pas par hasard arrivé au troisième tour.
Ouais, il avait éliminé Verdasco au tour
donc,
précédent.
Franchement, s'il continue comme ça et a développé le niveau de jeu qu'il a montré là pendant Roland-Garros, le voir monter dans les 100 premiers, là, gagner cette cinquantaine de places, je n'en serais vraiment pas surpris.
Cédric,
ouais, c'est vrai que c'est un.
Cédric,
c'est
pardon.
Un jeune garçon
qui a
du talent.
J'ai beaucoup aimé la question de Corinne, mais vous ne lui avez pas répondu. Comment c'était pour vous la première fois que vous êtes retrouvé débutant, minot, sur un grand court? Comment c'était? Racontez.
C'est impressionnant, le court central, c'est vraiment un court qui est immense.
Mais vous étiez surexcité ou au contraire, vous aviez les jetons et vous vous sentiez avec les jambes
nerveux,
qui flageolent, racontez.
Oui, mais c'est un mélange, hein, c'est jamais ni l'un ni l'autre. C'est un mélange des deux, d'excitation et puis de nervosité. C'est vrai que le court est immense, c'est vrai que on n'a pas, c'est très psychologique, hein, mais d'avoir finalement 15 000... perdieux qui vous fixe et puis on sait qu'il y a la télé, on sait que ben voilà que c'est le cours ultime hein, du lieu, donc c'est vraiment 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 impressionnant.
Mais Philippe, je peux vous dire qu'il y a même des Français qui préfèrent par exemple jouer sur le Suzanne Lenglen que sur le Philippe Châtrier, parce que c'est vrai que il la sentent cette pression sur les épaules.
Ouais.
Caroline Garcia par exemple nous en parlait. Elle a été éliminée sur le Châtrier. Alors c'est effectivement ce jour-là, elle est passée à travers. Mais c'est vrai aussi que ce type de cours peuvent impressionner, en tout cas pas Gaël Monfils qui est rodé à l'exercice. Donc ça c'est fait. Mais alors au prochain tour, Cédric, rentre.
Racontez, il connaît son adversaire.
Dans les choses sérieuses,
ah, oui.
Voilà, il connaît cette fois son adversaire maintenant. Ce sera le finaliste de l'an passé, Dominic Thiem, le 4e mondial, l'Autrichien, qui a dû un petit peu batailler pour se qualifier. Lui, il a mis 4-7 hein, pour sortir l'Uruguayen Cuevas. Mais bon, pour Gaël, c'est un sacré morceau
qui
s'annonce.
Oui, c'est un sacré morceau. C'est certain que plus on avance dans le tableau, plus on a des chances de remporter de rencontrer les gros cadors.
Chance, je ne sais pas, ou un risque.
Donc là, ça y est, c'est un gros match qui arrive. C'est, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas dépensé d'énergie, je dirais, inutile lors de son parcours. Mais il va falloir en tout cas qu'il, voilà, qu'il soit opportuniste, qu'il soit agressif. Parce que s'il ne cherche pas à bousculer l'Autrichien, ça m'étonnerait que voilà, ça sera dur, quoi. Mais ça serait étonnant qu'il passe juste en développant un jeu un petit peu attentiste, quoi.
On va suivre ça, voilà, évidemment. Ça sera quand ?
Gaël Monfils est prévenu. Ben, ça sera lundi.
Lundi.
Justement.
Alors.
Dans deux jours, puisque sur un tournoi du Grand Chelem, vous avez forcément 24 heures de relâche et vous n'enchaînez pas les matchs comme dans les tournois hors Grand Chelem.
Alors, à part le match de Monfils contre Wang qui nous intéressait particulièrement puisque c'était deux Français, qu'est-ce que vous retenez, Cédric et Corinne, de cette journée ?
Eh bien, on va dire l'élimination dans le tableau féminin de la numéro 1 mondiale, ouais. Naomi Osaka. Alors, bon, sincèrement, elle ne nous avait pas non plus donné des signes extraordinaires sur les tours précédents. Eh bien là, elle est tombée. Alors, face à une jeune Tchèque, 23 ans, 42e mondiale, qui se retrouve pour la première fois en 8e de finale d'un Grand Chelem, Katerina Siniakova. Mais bon, Osaka avait remporté quand même les deux précédents tournois du Grand Chelem, à Melbourne en janvier, à l'US Open en septembre dernier. On attendait sans doute mieux de Naomi Osaka que de voir son parcours terminé ici en 16e de finale à Roland-Garros.
Oui, c'est sûr qu'on attendait mieux. Maintenant, comme vous l'avez dit, Corinne, elle n'a pas convaincu lors de ses deux premiers matchs, ou même elle a failli perdre, puisqu'elle était à deux doigts de l'élimination. Et il peut pas y avoir de miracle. Je dirais qu'elle n'a pas joué énormément avant Roland-Garros. Et également, c'est une surface dont elle ne maîtrise pas encore les subtilités, le déplacement qui est un petit peu différent du dur, et où il faut travailler un petit peu plus le point, mais elle a tout ce qu'il faut pour, dans les années qui viennent, y arriver. C'est aussi, n'oublions pas que elle est numéro 1 mondial, mais elle n'a que 20 ans.
Pardonnez-moi, on va passer au garçon. Djokovic est passé.
Oui, sans difficulté aussi en huitième de finale. Il élimine en trois manches un Italien issu des qualifications. Franchement, lui, il continue à marche forcée sur son tableau. Ouais. Bon, et il n'aura même pas Borna Koric, le Croate, en face de lui en huitième de finale, puisqu'il a été sorti par le jeune Allemand Jan Lennard Struff en 5-7.
Oui, c'était d'un côté, effectivement, Djoko qui passe, mais qui n'a pas eu un match aussi facile que le score l'indique. Il a joué plus de deux heures pour faire 3-7. Il y a eu énormément d'échanges. Son adversaire italien s'est plutôt bien défendu. Et effectivement, comme Corinne vient de le souligner, eh bien, la surprise, c'est que Struff a battu Koric. Et je trouve qu'il, évidemment, n'est pas quelqu'un qui est connu du grand public, mais qui, depuis le début de l'année, je peux vous dire qu'il a gagné un paquet de matchs. Et il est je dirais pratiquement dans la meilleure saison de sa vie.
Voilà, et donc autre qualification. Oui, pardon, Philippe.
Non, allez-y. Non, j'entendais le public, le public autour de vous qui s'exclamait. Je voulais savoir ce qui se passait en ce moment à Roland pile à l'instant même.
Un petit point contesté là, effectivement, entre Serena Williams, on est en train de regarder d'un œil Serena Williams face à sa jeune compatriote, la Kérine. Mais bon, vous voyez, ça se calme tout de suite et le point est perdu par Serena. Et gagné par la petite Kérine. C'est vrai que c'est serré là dans ce deuxième set.
Alors je vous ai interrompu.
Donc voilà
Corinne.
Pourquoi.
Vous allez nous parler de Zverev.
Oui, exactement. Quart de finaliste l'an passé, qui a eu un premier tour un peu compliqué et qui là semble lui aussi un petit peu mieux lancé, même s'il a dû aller chercher sa qualification en 5-7. C'était sur le Simon Mathieu. Je suis allé voir le dernier set face à Dusan Lajovic, qui était finaliste d'ailleurs à Monte-Carlo. Franchement, Zverev là. Il commence à enchaîner les matchs, mais il sera opposé à Fognini, vainqueur lui à Monte-Carlo au prochain tour. Et ça va être là aussi un sacré test pour le numéro 4 mondial.
Oui, lui par contre,
numéro 5 mondial,
il a laissé un petit peu d'énergie en cours de route, puisque c'est son deuxième match en 5-7. Mmh. Et je dirais que même si on voit que c'est beaucoup mieux ce qu'il fait, avec Fonini qui lui aussi a été un petit peu bousculé aujourd'hui en 4-7. Il va falloir qu'il soit plus percutant, plus solide. En tout cas, moi je mettrais pratiquement Fonini favori sur ce match.
Ouais, donc, alors, on verra ça.
On
et
va
puis
voir.
L'autre, on la,
va voir
le
qui
dernier
gagne au jeu des pronostics
de
entre vous deux. Ouais. Pardon, Corinne, allez-y, ouais, je vous ai interrompu. Allez-y.
Non, je vous en prie, Philippe. Le dernier huitième de finale qui a été composé aujourd'hui opposera Khachanov, le russe, tête de série numéro 10. À un certain Argentin, Juan Martín del Potro, que vous appréciez, Cédric, qui est tête de série numéro 8. Là, ça va être un sacré combat.
Oui, avec un del Potro qui souffre un petit peu du genou. Sur son match précédent, il s'est fait un petit peu mal et il est bandé depuis. Donc ça va être un match en tout cas de frappeur. Et Del Potro, bon, moi depuis le début du tournoi, j'ai dit attention, il faut le surveiller, il joue bien maintenant. Et s'il a ce petit souci physique, c'est différent, évidemment.
Alors, Europe 1 et la
voilà
radio.
Voilà pour cette journée.
Ouais, alors Europe et la radio officielle de Roland Garros, justement, on sera là encore, vous serez là encore demain. Quel programme pour demain, les amis? C'est le début des huitièmes, c'est ça?
C'est ça, et on aura donc un Français, Benoît Paire. On ne va pas l'oublier, Benoît Paire, parce qu'il dispute pour la première fois un huitième de finale ici à Roland-Garros. Ce sera sur le court Suzanne Lenglen en dernier match face au japonais Kei Nishikori qui avait sorti Joe Wilfried Tsonga.
D'accord.
Oui alors Nishikori qui est un petit peu un survivant de son tour précédent où il a été mené de deux breaks dans la cinquième manche. Il s'en est sorti. C'est un sacré client.
Bah oui.
Il va falloir que Benoît fasse un gros match. Même s'il a déjà battu, Nishikori, attention. Et Benoît qui est dans une superbe forme, puisque non seulement il est en huitième, la semaine passée, il a gagné un tournoi à Lyon en arrivant à Roland-Garros. Donc pour l'instant, il est sur une belle série. Et il va falloir qu'il joue son jeu, tout simplement. Et que je dirais qu'il surveille le plus possible le nombre de points qu'il va donner, ou de fautes directes qu'il pourra faire.
Pour
profiter de ses temps forts pour bousculer le japonais et peut-être le rendre fou un petit peu.
Oui, mais en même temps, Cédric, pardon de cette question de débutant, je me répète, mais tous ceux qui arrivent là
Allez-y.
Ont tous gagné leur match. Donc, ils arrivent tous sur un bel élan.
Ah, tous les joueurs maintenant qui sont en huitième de finale, ils ont gagné trois matchs.
Ouais.
Donc, tout le monde est réglé dans son tennis, dans son tournoi. Il n'y a plus de nervosité, il n'y a plus rien. C'est vraiment la gagne quoi. Il faut aller chercher les matchs et passer sur son adversaire pour espérer se qualifier. On
ne
peut pas s'attendre non plus à avoir une baisse de régime quoi.
Suite et fin du programme Corinne et Cédric.
Alors sur le court Philippe Châtrier, nous aurons le retour de Roger Federer, le numéro 3 mondial sera opposé à l'Argentin Leonardo Mayer. Duel de terrien ensuite entre Rafael Nadal, le tenant du titre, face à un autre Argentin, Juan Ignacio Londero. Nous aurons un sacré duel, une belle affiche, je trouve moi, entre Stefanos Tsitsipas le grec et Stan Wawrinka. Et chez les femmes, Sloane Stephens, la finaliste de l'an passé, sera opposée à l'Espagnol Garbiñe Muguruza qui avait remporté le tournoi ici il y a deux ans. Ça pourrait être une affiche déjà de finale, ce huitième de finale féminin.
Merci.
Quasiment, et c'est vrai qu'il y a un très beau programme demain. Il faut suivre tout ça.
Sous la chaleur encore.
Vous savez quoi ? On y sera. Merci à tous les deux. On vous retrouve demain à 19h40. Et vous, Corinne, toutes les demi-heures en alternance avec Christophe Lamar pour suivre les matchs, évidemment, sur Europe 1, la radio officielle de Roland-Garros.
Europe 1.
Et tout de suite sur Europe, on va retrouver Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Philippe.
Alors ce soir, je connais le programme, c'est Liverpool-Tottenham. Essayez de me convaincre. Comment s'intéresser à une finale de Coupe d'Europe entre deux clubs du même pays, en l'occurrence britannique. Mais ça aurait pu être deux Italiens ou deux Espagnols.
Une seule bonne raison.
Allez-y.
Écoutez Europe 1. Comme quoi, vous ne marcherez plus jamais seul. You'll never walk alone.
Exactement, Liverpool, c'est la chanson fétiche de Liverpool. Merci Lionel. Nous, on se retrouve demain à 18h. Salut Marlène.
À demain,
bonne
salut
soirée
Philippe.
À l'écoute d'Europe 1.